Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps.
Tout au long de l'année, le dimanche, entre 11h et midi, vous avez apprécié Laurent Baffy. Et tout au long de cet été, eh bien, nous vous proposons de retrouver un florilège de ces émissions. Retrouvons M. Baffy avec Jean-Marie Perrier, Eric Azaray, Richard Boringer. Et dans cette séquence, ce fameux jeu.
Et vous voulez pas? On va refaire un petit niallo, dit bonjour. Il y a combien dans la cagnotte?
350 millions 40 000 euros.
Je triple cette somme.
Écoute, j'ai plus de place sur l'écran de la calculette, ça sort là.
C'est un milliard d'euros quoi.
Un milliard.
On dit quoi? Un milliard d'euros. Ouais,
ouais. C'est beaucoup d'argent.
Allô?
Oh non!
Dommage.
Bonjour, c'est Laurent Baffy, c'est Europe 1. Quel est votre prénom, madame?
Allô?
C'est un jeu pour la radio.
On est dans une émission là.
Allô?
Oui.
Bonjour, quel est votre prénom?
Ginette.
Ginette, comme ma maman, c'est Laurent Baffy. Ginette, on est sur l'antenne d'Europe 1. Je suis avec Michel Drucker.
Bonjour, c'est Michel Drucker.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une émission.
Richard Boringer, Jean-Marie Perrier, Eric Azaray, les frères Bogdanov.
Et Omar.
Et Omar.
Et Omar, qui ne m'a pas tué, c'est une légende. Faut arrêter avec cette histoire.
C'est là, la bonne.
Voilà, fallait bien la, fallait
donc,
la faire.
Ginette. Le jeu s'appelle Ni allô ni bonjour. Et en décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte.
D'accord.
Parce que voilà. Est-ce que vous voulez savoir combien il y avait dans la cagnotte?
Non, 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 Ginette.
Non.
Ouais. Julie de Repin va vous le dire.
Non, il y avait.
Il y avait beaucoup d'argent, Ginette.
Beaucoup, beaucoup.
Alors,
beaucoup.
Vous aussi, vous m'accrochez à la gueule. Et, et ça a été comme ça toute la matinée, Ginette.
C'est un dimanche sans.
Jean-Marie Perrier.
Oui, mon ami.
Non, c'est pas toi que je parle. Jean-Marie Perrier.
Oui, mon ami.
Oui, bonjour.
Bonjour, Jean-Marie Perrier.
Comment allez-vous, Jean-Marie Perrier?
Très bien. Jean-Marie Perrier, ne quittez pas, je ne veux pas Jean-Marie Perrier.
Oui.
Allô, Jean-Marie Perrier?
Oui.
Jean-Marie
Perrier.
Oui,
je vous.
Parlez-vous, vous êtes entre Jean-Marie Perrier.
Ah bon. C'est pas souvent que ça arrive, ça. Hein.
Oui, alors vous êtes où, là?
Ah, j'habite à côté du Havre, moi.
Du Havre?
Oui.
On va pas par d'un côté, parce que nous, on est en Corrèze.
Vous êtes en Corrèze?
En Corrèze, oui.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Ben, pas grand-chose, hein.
Ça reste de vous. Regardez bien derrière. Regardez la vue.
Oui.
Vous faites quoi dans la vie, Jean-Marie Perrier?
Pardon, ben, je suis retraité.
Et vous, Jean-Marie Perrier?
Je suis retraité.
Oui, et vous, Jean-Marie Perrier?
Je suis retraité.
Et vous faisiez quoi avant, Jean-Marie Perrier?
Me retraiter de quoi, vous?
À les travaux publics.
Travaux publics?
Oui.
Moi, c'est retraité agriculteur.
Agriculteur.
Vous connaissez Jean-Marie Perrier?
Oui.
Ne quittez pas, je ne veux pas Jean-Marie Perrier.
Vous êtes né quand?
Hein? Ah, je suis né en 36.
Quand est-ce qu'ils sont nés?
Comment?
En 36.
En 36? Oui. Comment en 38?
Ah bon? Ah, je suis jeune.
Attendez, vous passez à la femme, elle va vous dire à vous, hein?
Jean-Marie Perrier, tu peux saluer tes homonymes?
Oh, oui, allons!
Je suis ravi de vous rencontrer.
Madame Perrier!
Oui!
Ne quittez pas, je vous passe Madame Badois!
Bonjour, je suis Madame Badois!
C'est donc!
Jean-Marie Perrier!
Oui!
Oui, allô, bonjour!
Oui, salut!
On vous fait des gros disques. On va vous envoyer le livre de Jean-Marie Perrier qui a fait un livre sur Daniel Filipacchi.
Non, mais. Hey, vous n'avez pas vu la Vierge, des fois? Hein? Parce que Jean-Marie Perrier, il n'a jamais fait le livre. Alors,
si, madame, il a fait un livre, parce que nous sommes à la radio, il n'y a pas un seul Jean-Marie Perrier. Il y en a beaucoup et je vous passe.
Ah oui, mais Jean-Marie Perrier n'a jamais fait un livre, il a du mal à se signer, à faire un chèque.
Eh ben, je vous passe. Mais je vous parle pas du vôtre, madame Perrier. Je vous parle pas du vôtre, je vous parle d'une autre.
Non, arrêtez votre cinéma, parce que ça va. Je ne répondrai plus dorénavant.
Ah bon, d'accord, très bien.
Alors, bonne nuit. Et salut.
On vous enverra des cadeaux, madame Perrier.
Mais j'attends mon cadeau.
On vous l'enverra, vous verrez, c'est fou.
Ah bon, mais le cadeau, je l'attends. Mais après le reste.
Je vous fais un gros bisou, madame Perrier.
Un gros bisou à vous aussi.
Au revoir, madame Perrier.
Au revoir, monsieur.
Et
merci, bonne nuit.
Au revoir.
Au revoir, madame Perrier. Et il se couche tôt, la campagne. Monsieur Boringer, bonjour.
Bonjour.
D'où êtes-vous, monsieur Boringer?
De Vierzon.
Ne quittez pas, je vous passe, monsieur Boringer.
Comment ça va, monsieur Boringer?
Ça va bien.
Allô, monsieur Boringer?
Oui, allô.
Non, l'autre, monsieur Boringer.
Lequel?
Vous, monsieur Boringer.
Oui.
Vous êtes d'où?
Cambrai.
Cambrai.
Comment il s'écrit, votre Boringer?
B-O-R-I-N-G-E-R.
H-R-I-N-G-E-R.
Où mettez-vous le H?
Avant le R.
C'est la police, monsieur. Où cachez-vous le H, monsieur? C'est un contrôle. Oui, monsieur Boringer.
Oui.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis maçon.
Est-ce que vous tirez quelques menus profits de cette homonymie?
Des comment?
Est-ce que tu baisses des gonzesses avec ton nom?
Non, pas du tout.
On va vous envoyer le livre de Richard Boringer, monsieur Boringer.
Oui.
Ah, hey, je suis vachement content que vous soyez si enthousiaste. Hein. Oh, je vais vous en envoyer deux. Parce que le bonheur éclate dans votre voix. Là.
Non, vous êtes
et on va vous
surpris.
Envoyer une truelle neuve. Ouais, génial. Monsieur Boringer.
Oui.
Vous aimez Rika Zaraï?
Du tout.
Eh bien, je vous la passe.
Alors, je suis ravie, heureuse, contente, monsieur, que vous m'aimez si fort. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien, il a raccroché.
Ah, c'est drôle.
Voilà, Laurent Baffy, vous le retrouverez donc tout au long de cet été, le dimanche, florilège de ses émissions entre 11h et midi.
On va se gêner, Laurent Ruquier, les meilleurs moments sur Europe 1.
Puisque Paul Vermus, expliquons-le pour ceux qui nous rejoindraient sur l'antenne maintenant, Paul Vermus, exaspéré par la façon personnelle que j'ai de poser des questions sur l'actualité, a voulu que je lui confie un article sur lequel j'avais déjà préparé une question et voulu lui-même préparer sa question. Alors déjà, il est en train de montrer la réponse
non,
à Elsa Fayer.
J'ai été très, très gentil. Alors, allez, retourner la question.
Allez-y.
Voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai eu un temps extrêmement court pour préparer.
Oui, enfin, j'ai pas 4 heures non plus là, pour le faire.
Voilà. L'Amérique du Sud, actuellement, est dans tous ses états. Et plus particulièrement un pays d'Amérique du Sud. Pourquoi? Comment? Je vous écoute, Laurent.
C'est aussi tordu, Laurent.
J'ai la réponse.
Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah,
c'est
oui.
Aussi tordu.
Alors, bon, allez.
C'est-à-dire qu'il y a 3 questions en une. C'est quel pays? Pourquoi?
Pas marrante, votre question.
Alors, déjà, je vais la faire autrement. Je vais la faire autrement si elle n'est pas marrante.
Moi, j'ai envie de répondre qu'animateur, c'est
alors,
un
attendez,
métier, d'abord.
Vous savez ce que je vais faire? Hein? Ça, c'est la question de Paul. Puis maintenant, je vous pose, moi, ma question, puisque c'est la même réponse.
Ouais. De toute
façon, si vous parlez espagnol et que vous savez traduire eau chaude, vous aurez la réponse.
Agua caliente. Et c'est le nom du club mexicain qui va accueillir Fabien Barthez.
Monsieur Laurent, c'est mais Laurent, c'est pas malin. Un jeu, on fait traîner la question, là. Parce que regardez-moi ça, vous m'avez saboté mon jeu. C'est pas bien.
C'est pas bien.
Autant j'avais rien compris à la question de Paul, bah, autant enfin, là, j'avais... c'était limpide.
Ouais, bah, ça, tous les deux, vous êtes de connivence. Ça doit depuis un moment.
C'est vrai qu'il a donné un indice supplémentaire, Paul.
Moi non plus, j'avais pas compris ta question.
C'est pas que je prenne mal, je suis pas mauvais joueur, mais il y a des limites à tout, quand même.
Non, mais c'était plus rigolo que
ça. Plus rigolo, c'est vous qui le dites. Hein.
Non, mais il parle pas espagnol, Paul. Faut pas lui en vouloir.
Eau chaude, Agua Caliente, c'est le nom, effectivement, de la ville et du club dans lequel, c'est quand même
c'est
fou.
C'est étonnant.
Va jouer Fabien Barthez, bientôt 36 ans. Hein. Il y en a 35, mais je crois que c'est dans 8 jours qu'il a 36 ans.
Et alors, c'est jeune, 36.
Oh, enfin, ouais, pas, pour un footballeur.
Quoiqu'un gardien de but peut jouer jusqu'à 40 ans. Hein. C'est déjà vu. Mais quand même, qu'est-ce qu'il va foutre au Mexique?
Alors, ça... il se dit que le Pérou, c'est pas loin, qu'au Pérou, il y a des lamas et qu'il peut cracher tranquille. C'est peut-être ça.
Non, mais il dit que c'est une très bonne équipe, mais bon, personne ne la connaît vraiment. Ça, c'est un peu la dèche, quoi.
Qu'est-ce qu'il va foutre au Mexique?
Il va prendre de l'argent.
Ouais, écoutez... mais il est même pas au Mexique. Il est dans le fin fond du Mexique. Il est pas encore dans une grande ville et tout.
Mais il doit avoir quand même de sacrées dettes, hein, parce que il cherche vraiment à chaque fois à retrouver une équipe. Ça, c'est louche cette histoire quand même, parce que les autres, ils ont gagné autant d'argent que lui. Ils sont un petit peu tous.
Attention, c'est quand même une grande. Il y a quand même 723 000 habitants à Aguascalientes.
Ouais. Cette équipe quand même a été. Une des plus grandes équipes mexicaines il y a quelques années.
Ah oui,
il faut le savoir.
Comment vous savez ça?
Comment je sais ça? Parce que ça, j'écoute tout, j'observe, j'analyse, voilà, c'est tout.
Parce qu'il est sorti pendant 11 ans avec un Mexicain.
Alors j'ai déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons, alors ça...
Monsieur Bert a 20 ans. Je ne sais pas si on prononce Bert ou Bert, il va me le dire tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, ils vont dire Bert, Joyce Bert. Peut-être même avant de prendre ce monsieur au téléphone, vous pouvez me dire pourquoi on va l'avoir au téléphone et pourquoi on parle de lui dans les journaux aujourd'hui. Joyce Bert, ça vous dit quelque chose?
Il joue au baseball.
Et c'est le premier joueur de baseball français à signer un contrat professionnel aux États-Unis. C'est un peu, nous dit-on déjà dans
le
la
Tony
presse
Parker.
Ce matin, voilà le Tony Parker du baseball. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes vous aussi d'origine normande. Joris Bert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 20 ans.
Exactement, 20 ans.
Alors, on prononce Bert ou Berthe?
Bert. Bert. On prononce pas le T.
Voilà, mais eux, ils vont dire Berthe aux États-Unis.
Ouais, bah, c'est les Américains.
On sent qu'on a envie d'y aller, hein.
Ah bah, vous devez avoir envie d'y aller quand même, vous leur avez dit oui aux Américains.
Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, j'ai envie d'y aller, hein.
Comment vous avez arrivé cette histoire incroyable de vous retrouver dans un club de baseball aux États-Unis, et est-ce que c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de Français à qui c'est arrivé avant vous?
C'est vrai, bah, c'est arrivé que je suis parti aux États-Unis au mois de janvier pour intégrer une école justement là pour faire du baseball et pour apprendre l'anglais, et bah en faisant des matchs des recruteurs sont intéressés à moi, et justement la semaine dernière ils m'ont fait savoir que bah justement ils voulaient me faire signer au club de Los Angeles, donc c'est super content quoi.
Donc vous allez vivre et jouer et pratiquer votre sport professionnellement, parce que on est payé pour être évidemment joueur de baseball aux États-Unis.
Ouais, c'est sûr, bah ouais, c'est ça va être là le monde du professionnalisme.
Ce qui n'est pas le cas en France. Quand vous jouez au baseball chez nous, vous n'êtes pas payé, j'imagine.
Non, pas du tout.
Vous êtes amateur. Et donc, vous allez passer pro. C'est la première fois qu'un Français passe professionnel dans ce sport un peu méconnu chez nous, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir du baseball en Normandie, par exemple.
Bah, ça dépend. C'est surtout les amis, la famille des joueurs qui viennent. Et de temps en temps, bah, des gens qui veulent s'intéresser au baseball, quoi. Mais en général, c'est pas la grande foule, quoi.
Vous étiez licencié au club des Huskies de Rouen, c'est bien ça?
Exactement.
Vous mesurez maintenant, c'est tout sur vous grâce à Jacques Ardoin, qui est le correspondant du Parisien en Seine-Maritime. Vous mesurez 1m79, vous pesez 75 kilos, vous êtes né à Louviers dans l'Eure.
J'ai pris 20 cm depuis la semaine dernière.
Ah, 20 cm?
Comment t'as fait? Bah, ça le fait bander d'aller aux États-Unis. Le journaliste normand, d'ailleurs, Jacques Ardoin, correspondant du Parisien, dit que vous êtes bien sous tout rapport. Je sais pas, et vous, ça veut dire quoi, ça, bien sous tout rapport?
Bien sous tout rapport, bah écoutez, je sais pas non plus, alors.
C'est ce qu'il écrit, hein, en tout cas, voilà. Et là-bas, le baseball, c'est une sorte de spectacle, évidemment, plus qu'un sport, peut-être, non?
Ouais, c'est sûr, parce que le baseball, c'est assez long comme jeu, justement, enfin, comme sport, et les matchs, en général, durent 3 heures, donc les gens, ils viennent en famille, entre amis, et pendant le match, ils discutent entre eux, ils s'amusent, et ils regardent les actions. C'est pas un sport qu'on suit du début à la fin, qu'on est dedans jusqu'au bout, quoi. On vient là pour se divertir et on regarde le sport en même temps, quoi.
Vous voilà parti donc dans le championnat nord-américain. Ça commence quand, ce championnat, pour vous, alors?
Bah, ça va commencer quand, bah, là, ils devraient m'appeler, bientôt pour me savoir pour le contrat et tout. Donc, là, je sais pas encore.
Ah, c'est pas signé?
Comment?
Oh mon Dieu, c'est pas signé. J'aurais pas dû croire.
Accroche, ouais,
j'ai vu ça sur le blog de Morandini, j'ai cru que c'était signé.
Non, mais c'est sûr que ça va être signé, quoi. Mais
on capte plus, on entend plus, là.
Oh non, mais alors là, si on va plus vite que la musique, méfiez-vous, les Américains, ils peuvent changer d'avis quand même.
Ah non, mais je pense pas qu'ils écoutent la radio.
Bon, alors.
dans quel club est-ce qu'il part? Parce qu'on l'a pas dit, aux États-Unis.
Au Los Angeles.
Bah, ça peut nous faire, on connaît pas le baseball en France, alors le club.
Eh bah, il y a des jeunes qui connaissent le baseball en France, Paul.
Expliquez-moi les règles du baseball, tiens.
Bah, t'as une batte et tu tapes dans la balle.
Exactement, c'est ça.
Déjà, il y a des jeunes en France.
C'est quoi? C'est chez les Dodgers?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ah, d'accord.
Oui,
est-ce que c'était le club qui vous faisait rêver avant?
Non, bah, c'est pas forcément le club qui me faisait rêver avant, mais c'est sûr que c'est un grand club et je suis très, très fier de qui m'ont sélectionné, quoi.
Et il paraît que sur le terrain, vous êtes une gazelle, nous dit l'article, quelqu'un de très rapide et qui possède un bras gauche formidable.
Ouais.
Mais il veut pécho, le mec a écrit ça. Il est bon, c'est tout rapport, c'est une gazelle. Il attend que tu le rappelles, hein.
Non, mais c'est bon.
On vous applaudit pour cette performance, en tout cas, d'accord, pour ce transfert d'un Normand aux États-Unis, un premier Français professionnel en baseball. Ça méritait d'être salué. Bravo, Joris Bert.
Merci beaucoup.
Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner.
Une histoire atroce, résumée dans le Parisien très brièvement, mais on comprend quand même ce qui a pu se passer, c'est tragique. Un gardien du zoo de Schönbrunn en Autriche est mort hier, tué par un éléphant qu'il a transpercé avec une défense alors qu'il lui administrait sa douche. C'est assez rare, ce genre d'accident. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Pourquoi vous avez dit oui alors?
Ah oui, c'est rare.
Non,
oui.
C'est rare, mais ça peut toucher énormément de gens. Enfin, tu rencontres tous les doucheurs d'éléphants.
Bah, tu sais qu'il y en a des drames avec les éléphants. Parce qu'il y a un site internet qui s'appelle lesmortslesplus-cons.com. Je te jure, c'est vrai.
Lui, il fait la une aujourd'hui.
Il y a un mec, c'est un soigneur d'éléphants, et l'éléphant était constipé. Il n'avait pas été aux toilettes depuis, je sais pas, un mois.
le mec qui lui a mis les toilettes en porcelaine, ouais. J'espère. Ouais.
Le mec il lui a mis un suppositoire d'éléphant, tu vois.
Je te raconte pas la taille du suppositoire, on dirait un obus 75.
Il l'a avalé.
Il a largué. Non non, il est mort enseveli sous 3 tonnes de merde.
Non mais c'est pas possible.
C'est sûr, lesmortslesplus cons.com. Vous avez qu'à taper.
Pourquoi tu regardes
les
tous les jours
les plus cons.
Oui, c'est un
qui
site.
Qui a créé ce site?
C'est un site internet. Il y a même un. Il y a un végétarien qui est mort tué par un steak. Parce qu'il y avait une mémé qui avait fait décongeler un gros gigot, un gros roast beef sur son balcon, et le roast beef a avancé sur le bord en décongelant, et il y avait un végétarien qui faisait son jogging, il a pris sur la tronche, regardez sur le site, lesmortslesplucons.com.
On a compris, oui.
Tu sais c'est un site que toi tu as monté au Mexique.
Non.
L'arme la plus formidable qui a été dans beaucoup de romans policiers depuis quelques années.
Le steak congelé.
C'est le gigot.
C'est-à-dire
que tu non, pas du tout. Tu as un gigot congelé, c'est dur comme une pierre de 4 kilos. Tu tues ta femme avec ce truc-là et tu laisses décongeler le gigot. Où est l'arme du crime? Madame du crime.
D'ailleurs, c'est l'hymne des maris. Heureusement, il y a fin du.
Les flics viennent, tu dis c'est un rôdeur, mais par où est-il entré? Je ne sais pas, en tout cas, ici, il n'y a pas d'arme.
Non, mais un éléphant constipé, ça.
Oui, bon, d'accord, là, celui-là.
Non, mais moi, j'ai plusieurs éléphants à la maison. Si tu leur donnes des légumes, ils sont pas.
Celui-là, il y a une raison, au fait. Vas-y. C'est une raison avancée, évidemment. On n'est pas dans la tête de l'éléphant. Hein. Pourquoi il a transpercé son doucheur, celui qui, quand même, devait avoir l'habitude de le doucher régulièrement. Pourquoi il l'a transpercé avec sa défense? Eh bien, le pachyderme, né il y a 3 ans par insémination artificielle, était en phase de séparation d'avec sa mère, ce qui pourrait expliquer son agressivité. Vous vous rendez compte? En tout cas, c'est ce que dit l'avocat.
Ça serait jamais.
C'est la préfecture de police dit qu'il y avait ou deux éléphants.
Messieurs, mon éléphant a vécu une enfance malheureuse.
Non.
Non, mais ça ressemble à ça.
L'éléphant dont j'assure la défense.
Oui. Très joli, Jean-Bernard.
Oui. Tu l'avais laissé passer, c'est
là. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais.
Surtout qu'il était.
Je voudrais vous y voir.
T'es pas sur tous les coups, là.
Surtout qu'il n'était pas chiderme, il était plutôt gentil.
Je voudrais vous y voir, ça vous l'avez pas compris, celui-là.
Oui.
Ah oui.
Danseur étoile à 42 ans, vous voyez, tout est permis.
Tout nous est permis.
Tout est possible. C'est une belle histoire, cette histoire-là. Parce que
42 ans, danseur étoile, mais un éléphant, danseur étoile à 42 ans. Ah, c'est pas un éléphant.
C'est une belle histoire. C'est Wilfried Romoli qui vient de décrocher le titre tant convoité après 15 ans d'espoir déçu et de travail sur lui-même. Vous imaginez bien, c'est très rare qu'on nomme un danseur étoile à l'âge de 42 ans.
Rodolphe Nureyev.
Ah oui?
Oui.
Même Rodolphe Nureyev a été nommé à 42 ans.
Vous êtes sûr de
moi,
ça?
Moi, je dirais 43.
Ouais. Moi, je connais pas son âge, mais je le connaissais.
T'es pas vrai, vous?
Ouais, il est vachement beau, il était vachement beau.
Ah bah oui.
Il est mort
oui.
À New York, mais.
Comment vous avez connu Rodolphe Nureyev?
Bah, parce que, en regardant les livres, de
Ah, mais vous l'avez pas connu!
Pas personnellement, je t'ai connu!
Ah oui!
Mais nous aussi, on le connaît, alors!
Comme Victor Hugo, comme Napoléon! Ah oui, je le connais, Napoléon! C'est trop fort!
Non, mais il met pas trop toujours tous ici!
Ah, je l'ai connu,
Nureyev! Ah, mais ça m'étonnerait!
J'ai bien connu Charlemagne!
Comment tu dis ça? On va avoir 18 emails! Nureyev est né en 37.
Oui.
Il est arrivé à Paris, ça devait être en 1963 ou 64. Il était déjà danseur étoile au Bolshoï depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Donc, il est arrivé à Paris, il devait avoir, en 1963, mais en 38, il avait 25 ans, il était déjà danseur étoile. Oui. Qu'est-ce que tu racontes, nommé danseur étoile à 42 ans? Quand
mais
il avait
donc,
42
c'est...
ans, il était patron de la danse à l'Opéra.
Oui, il a été nommé directeur de l'Opéra de Paris, voilà, mais pas danseur étoile. Danseur étoile à 42 ans, je pense, c'est très très rare. Il a été nommé danseur étoile après Ish Bin, qui est actuellement...
Ein Berliner.
Pardon?
Ish Bin, Ein Berliner.
qui se joue actuellement au Palais Garnier, voilà.
Danseur étoile à Paris?
Oui. Bah, qu'est-ce que vous pensiez? Alors, Il est né à Saint-Denis et il savoure sa nomination. Il dit que c'est
à Saint-Denis dans le 94 ou à La Réunion?
Non, ici, pas à La Réunion. Et il dit que c'est comme un César d'honneur qu'on lui attribue quasiment à la fin de sa carrière.
Danseur étoile honoraire, c'est sûr. Quand...
Je pense qu'il a dû être barré par comment celle qui est partie pendant, qui a été pendant longtemps directrice de l'Opéra Garnier. Non, non, Claude Bessy. Non, il n'a pas été. Il n'a pas été. À mon avis, c'est ça. Il a dû être barré par l'ancienne directrice de l'Opéra de Paris. C'est pas possible, autrement, que d'un seul coup, à 42 ans, on lui donne.
Allez, peut-être que je confonds tout, mais j'ai lu un article très récemment. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il avait un handicap physique ou un truc comme ça?
Pas du tout. Il va très bien, il est très beau. Il a un physique atypique, un visage coupé à la serpe, des cheveux ras sur un physique d'athlète, un regard clair derrière des petites lunettes rondes. Danseur à l'opéra, il vient de décrocher son titre. Il dit, mon ami, monsieur, bonsoir. C'est
ça. Ça, ça marche toujours. C'est formidable. On n'est jamais déçus.
Mais est-ce que Laurent, on lui a pas annoncé ça à la fin d'une représentation?
Oui, c'est ce que j'ai dit à la fin de Ichbin.
Oui.
Mais t'arrêtes de faire le phoque. C'est pas possible.
C'est le roi du phoque. C'est bien connu.
Trop drôle, j'en pleure. Alors, pourquoi? Parce que j'adore quand tu fais les 11 étrônes, ça me fait toujours mes péter de rire. Ah bah voilà.
Voilà. Restez pas derrière, Christine. vous allez vous retrouver dans mortalacon.com.
Europe 1, les meilleurs moments de Laurent Ruquier.
On peut parler de Véronique Genest qui soutient votre mère. Tiens, Gérard Miller, c'est bien votre mère, Georges Sarr, dans le 11e arrondissement. Ils ont même cru que c'était un canular.
Tu es la fille de Georges Sarr?
Alors.
Alors, c'est pas votre mère, j'ai pas compris.
M-A-I-R-E, Pierre.
Oh, c'est bête, alors. Moi, ma mère, c'est la Méditerranée. Elle est bonne, celle-là aussi.
Non, parce qu'il y a pas d'enfant.
Non, mais... la plaisanterie que vous venez voir avec le triple sens du mot mer. Il y a le maire, il y a la mer Méditerranée, il y a la mère de famille et il y a le maire de Toulouse. Monsieur Boudis, en voilà encore.
C'est monsieur Douste Blasi, le maire de Toulouse, je vous signale.
Ah mais l'ancien maire de Toulouse, de père en fils, de fils en père, de père en fils et pas de maire. Méditerranée en ville.
Mais c'est n'importe quoi, Pierre.
Oui mais vous le laissez faire, Laurent. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même.
Ça me fait rire.
Regarde là. Oui. Regarde là, tu sais qui on dirait? On dirait la sœur de Cendrillon.
Anastasie, c'est mignon.
Elle est pas si belle que ça.
Dès que Laurent veut être désagréable, il faut que tu compares un homme à une femme. C'est étonnant, mais écoute, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Pierre, c'est pas bien.
Mais je me compare moi-même à Cendrillon. Oh, oui. Elles sont pas jolies, tes pantoufles de verre. Et d'ailleurs, et tu verras ton carotte, bientôt ça sera une citrouille. Écoutez. Non, écoutez.
Bon, on peut revenir à Véronique Genest.
Mais moi, je ne demande pas mieux, Pierre, tu veux bien.
Et donc, la mairie du 11e arrondissement a cru au départ un canular et ils ont vérifié. Non, non, Véronique Genest tient à aider le maire du 11e dans sa campagne pour autoriser les deux roues à utiliser les couloirs de bus. Voilà. Car vous le savez, pour
juste
l'instant, pour l'instant, les deux roues motorisées n'ont pas le droit d'utiliser les couloirs de bus. On en voit quelques-uns le faire, mais ils n'ont pas le droit. Ils peuvent avoir des PV pour ça.
Bien sûr, qu'ils viennent.
Quoi?
Bah, tu parles, toutes les motos vont
le
couloir.
Fait, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit. De temps en temps, on est arrêté.
Et on est arrêté de temps en temps, c'est honteux, parce qu'une moto, ça pollue que 8 fois plus qu'une voiture.
Non,
comme
absolument
tu sais.
Pas. Voilà. 8 fois plus arrête qu'une. Arrête, une fois dit une chose sensée. Les motos vrai. Que nous ça, avons aujourd'hui, vrai. Les scooters non, que nous non, avons.
On a des 4 temps, il y a
mais
plus
c'est
de temps.
Incroyable.
Les 2 temps, ça polluait et ça puait. Maintenant, c'est plus vrai. Tout le monde a des 4 temps.
On a des 4 temps, les riches. On a des 4 temps. Nous, les pauvres, on a des 2 temps, nous.
Ça ne se fait quasiment plus.
Moi, j'ai un Manurin, moi.
Il a un Solex. Pierre, lorsqu'on te prend la main dans le sac de la bêtise, reconnais-le une fois dans ta vie.
La main dans
fois.
Le sac de la bêtise, il doit y avoir du pognon à prendre, hein, parce que.
Bien joué, Cendrillon.
Ah oui, c'est pas mal, je vais t'appeler Cendrillon.
Elle doit quand même avoir, il faut le dire, Véronique Genest, j'imagine, une moto pour être aussi
sensible
à ça.
Non. Elle a une contravention qu'elle veut faire sauter, oui, c'est ça.
Parce que c'est vrai que moi, je penserais pas, si j'avais un combat, je penserais pas spécialement à l'autorisation des couloirs de bus.
Mais c'est un vrai combat quand on circule dans Paris, évidemment.
Oui. Quand on a un deux roues.
Bah, évidemment, ah oui, c'est intéressant. Moi, et quand t'habites Paris aussi, bah, voilà, encore des remarques intéressantes. Non, c'est pas croyable, cette émission.
Quand on habite en ville.
Mais je veux dire, il y a des combats.
Quand on habite en ville.
Mais il y a des combats, on veut réduire la circulation automobile. Alors, je voulais juste dire une chose aux apprentis psychiatres qui nous écoutent. Ce que raconte Pierre depuis un certain nombre de temps, c'est exactement ce que nous constatons dans ce qu'on appelle les délires. Un certain nombre de jours, c'est ce qu'on appelle un délire. Tu as toutes les caractéristiques du propos délirant. Le coq à l'âne, le rire immotivé. Enfin, c'est étonnant. Tu sais que tu devrais un tout petit peu te calmer.
Puisque tu veux parler en termes psychiatriques, je crois que tu as perdu la conduite du récit. Mon problème.
Pas du tout, pas du tout.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va se gêner les meilleurs moments.
Ah, il y a plus dangereux pour les jeunes. Heureusement, ça s'est bien terminé. Il y a le chasse-neige. Vous avez sûrement entendu sur Europe 1, c'est dans la presse aussi. Une fillette retrouvée sous la neige. Elle a 7 ans. Heureusement, elle a été retrouvée saine et sauve après avoir passé une heure sous la neige, ensevelie par un chasse-neige. Ça s'est passé à Montpéreux, dans le Doubs, exactement. Les recherches ont été suffisamment rapides pour qu'on retrouve l'enfant saine et sauve. Ça s'est passé au lieu dit le balcon du lac qui surplombe le lac de Saint-Point sur la commune de Montpéreux à 1000 mètres d'altitude.
Ça existe tout ça.
Eh oui.
Mais ça existe des drames comme ça. Je pense aux parents. Ça devait être terrible.
Ces jours derniers, en tout cas, la neige avait envahi le village. Les employés communaux ont commencé à évidemment utiliser le chasse-neige. Depuis le début de la semaine, les cantonniers s'activaient au volant de leur chasse-neige, formaient des tas en divers endroits de la commune, des monticules qui apparaissaient en plein centre du village. Et hier, en fin de matinée, le cantonnier a continué à déposer de la neige et la petite Lison, une gamine de 7 ans qui habite un pavillon tout proche, jouait au même endroit. Elle s'est cachée près du lac et on nous dit même que les enfants adorent s'amuser dans les igloos qui sont ainsi
On se fait des petites maisons.
Mais oui, voilà. Et lui, le cantonnier, il a pas vu évidemment la petite Lison et à un moment donné, plouf.
Évidemment, au septième apéro, il peut pas voir. Tu sais, avec Maurice, la tienne la mienne. Et puis,
tu veux jouer à cache-cache.
C'est igloo-igloo, hein. Igloo-igloo. Dame alcooliste dans le département de la pipe, en plus. Le Doubs.
Oui, tu insultes la classe ouvrière, là.
Gérard, j'en peux plus. Faites quelque chose, aidez-moi.
Mais on ne peut rien faire. Je vous assure qu'à part une petite
injection... Oui, mais tiens, je parle à mes auditeurs. On me dit c'est dans le Jura, la pipe, parce que le Jura et le Doubs, c'est loin l'un de l'autre.
Contrairement à ce que vous avez dit, le cantonnier était d'une sobriété exemplaire. La preuve, c'est que intrigué, à un moment donné, il est retourné au tas de neige, il s'est dit, tiens, c'est peut-être moi le responsable, faisant le tour et montant sur le tas de neige, sans rien voir, il a finalement entendu des cris faibles, mais bien réels, et il a pu ainsi dégager la petite Lison, sonnée, mais bien vivante. Qu'est-ce qu'il y a?
Je présente mes excuses à ce cantonnier, c'était pour faire rire une bande d'abrutis, et je dois dire qu'un cantonnier, là, cela dit, quand même, la personne qui a rédigé la dépêche, quoi, entendant des cris faibles, d'un enfant sous la neige, il s'est dit bon, les cris ne sont pas forts, mais c'est quand même un enfant et il est allé comme un coup. C'est formidable. Moi, j'attends que les cris soient forts. Je suis avec Raymond. On boit un coup, on est cantonniers tous les deux. Bon. Je me dis tiens, il y a peut-être un enfant. J'approche mon oreille du tas de neige. Hein, et il dit qu'est-ce que t'entends? Il dit oh, rien, des cris faibles. Il doit y avoir un gosse là-dedans parce que elle crie faiblement. Qu'est-ce qu'il me dit Raymond? À la tienne. Bien sûr. Des cris faibles, normalement, t'arrêtes pas ton boulot.
Oh non, mais Gérard, faites quelque chose.
Mais je ne peux rien faire.
Mais déblayez tout ça.
Alors, on va passer. En tout cas, on est bien content qu'elle soit vivante.
C'est un mec qui est content. Comment elle s'appelle, Faustine, non?
Lison.
Lison Findus. Je prends de Lison.
Lison Findus. Non, écoutez, vraiment, on me gérera, mais c'est l'horreur depuis tout à l'heure.
Enfin, ouais, elle est vivante, la gamine. Bon. Elle est vivante, ça s'arrose.
Oh mon Dieu,
Gérard, fait.
Mais il faut bien le savoir, la France est bourrée de gens comme ça qui ont une conscience.
quelques petites nouvelles publiées par le Courrier International. Par exemple, l'histoire de cette Allemande tombée amoureuse d'un Danois lors d'un séjour au sport d'hiver et qui a retrouvé l'élu de son cœur.
Un Danois, vous voulez dire un habitant du Danemark, pas un chien?
Pas un chien, non. Elle est tombée amoureuse de ce Danois lors d'un séjour au sport d'hiver et a retrouvé l'élu de son cœur après avoir écrit à 340 hommes nommés Karsten, parce qu'elle savait qu'il s'appelait Karsten, et s'il avait fallu, dit-elle, j'aurais écrit au 1100 Karsten de Copenhague. Pour l'instant, évidemment, on n'a pas tout à fait la certitude qu'elle a retrouvé son Karsten. Il y a un Karsten qui lui a répondu, on dit qu'elle a retrouvé l'élu, mais bon, ils n'ont pas eu leur premier rendez-vous. Je trouve c'est bien d'être tenace quand même. Hein.
Tenace.
Oui, je dis tenace, pourquoi?
Non, j'avais entendu connasse.
Non, mais elle l'a retrouvé uniquement de façon épistolaire, hein. Ils ne se sont pas encore vus. Donc peut-être qu'elle va,
avoir un gros choc.
Oui, peut-être. Parce que peut-être si elle l'a vu avec, moi je sais pas, des après-ski comme vous dites, et un bonnet, le machin, le truc, les lunettes. Une fois qu'il a tout enlevé, c'est comme une nuit après une boîte de nuit au matin quand vous vous réveillez. Hein. Vous vous souvenez de votre époque de célibataire?
Oui. Jean-Luc. Je me rappelle de la tournée. Hein.
Oh là là. Ah, c'est ça. Voilà, il est 3 ou 4 heures du mat. On rentre avec quelqu'un, on sait pas trop.
Voilà, puis, c'est ça. Et puis au réveil, tout de suite, on demande déjà le prénom et après elle nous demande. Alors il est sympa, Gérard Miller.
Une séance sans film à 3 euros, c'est ce que propose un cinéma de Francfort. C'est-à-dire vous payez 3 euros, vous rentrez dans la salle de cinéma, il n'y a pas de film.
Pour acheter une glace.
C'est pas con.
Pour faire la sieste, exactement. Bravo, Jérôme Bonaldi.
C'est idiot.
À l'heure du déjeuner, pour que les cadres puissent aller faire la sieste, le Cinestar Métropolis de Francfort offre des pauses de 20 minutes sur fond de musique douce. La formule devrait être étendue aux 90 autres salles Cinestar de l'Allemagne, notamment à Berlin, à Bonn et à Kassel. C'est dans le Arztzeitung Online qu'on peut lire cette information. Et voilà une idée qu'elle est pas bête.
Mais c'est pas bête en même temps, il pourrait en profiter pour passer des films chiants.
Oui, parce que parfois on fait la sieste oui. Et il y a un film en même temps.
Notre ami Pierre Bénichou dort régulièrement au cinéma. Je me souviens d'un film qu'on avait
c'est
dû aller
cher,
voir.
C'est plus cher, là ça coûte que 3 euros en même temps. Voilà le truc.
C'est vrai, mais 3
Vous
euros.
Vous pouvez pas avoir un film en plus pour dormir, comprenez?
Non, mais il y a des films qui aident à dormir. On était allé voir un film pour l'émission de télé avec Pierre Bénichou. Ils s'installent dans la salle, les lumières s'éteignent, le générique
quel
est
film
lancé.
C'était?
Oh, je crois... Une parodie de Scary Movie, ou c'était Scary Movie.
Ah, oui.
Et le générique commence, et Pierre commence à scier des bûches. Jusqu'au générique final. Et les lumières se rallument, il se réveille, il se tourne vers moi, il dit, c'est pas terrible, non?
Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner.
Le piercing sans bourgeoise, les bijoux de peau gagnent les beaux quartiers. Avant, le piercing était effectivement réservé un
à
peu, on va
cuisine.
Dire. Quoi?
À la cuisine, le piercing. Là.
Oui, non, le piercing, Jean-Luc le Lemoine. Avant, c'était plutôt les Jones, voilà, qui est Jones.
Et maintenant, c'est les Viums.
Oui, les Viox.
les Viox. Vous êtes sûr que c'est un papier de cette année que vous avez lu, là?
Ah, c'est dans le Figaro aujourd'hui, non?
Ah oui, parce qu'il y a 2 ans, on disait déjà la même chose, et il y a 5 ans aussi.
Non, sauf que là, maintenant, vraiment, les grands bijoux offre des piercings en or, en argent, piercing papillon en or, en diamant.
Quand vous dites ils offrent, vous voulez dire ils proposent?
Oui, évidemment. Oui.
C'est pas tellement leur genre d'offrir cela.
Non, mais voilà, c'est nouveau. Avant, le piercing c'était un petit morceau de ferraille, n'importe comment, qu'on se foutait dans le nez, dans l'oreille. Là, maintenant, attention, il y a des piercings pour chaque partie du corps, c'est bien spécifique en fonction de la forme. On ne peut pas mettre n'importe quel piercing n'importe où. Non, c'est vrai.
Ben exactement, c'est très dangereux.
Si le body piercing puise ses origines dans les civilisations primitive, nous rappelle le Figaro. Certains piercings modernes n'ont aucune origine tribale, ce qui ne les empêche pas, écoutez bien, d'obéir à des codes. Leur forme, notamment, diffère suivant les différentes parties du corps auxquelles les piercings sont destinés. Le piercing droit est prévu pour la langue et le sein. L'anneau et le courbe, appelés aussi banane, sont plutôt indiqués pour le nombril, le nez, l'oreille ou l'arcade sourcilière. Mais attention, un piercing sur l'arcade sourcilière, le nez ou le nombril exige les mêmes soins d'hygiène que pour les lobes d'oreille. Faut faire très attention à ça. Ouais. Un piercing sur la langue, ça doit être quand même assez... Quand je vois ça, ça me fait mal, moi.
Mais moi, ça fait du bien. Les piercings au téton aussi, ça fait mal. Terrible en plus.
Pour le bébé quand tu allaites.
Il risque de choper le tétanos aussi.
Et le piercing tribal, ça fait mal
aux deux autres, il paraît.
Vous dites, il paraît que c'est bon pour le...
Il paraît que le piercing, je ne sais, je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter, mais notre ami Bonaldi, qui connaît quelques professionnels, devrait savoir. Il paraît que le piercing sur la langue, c'est fait pour que lors d'une irrumation, puisque c'est le terme technique, eh bien, ce soit excellent.
Vous avez dit une quoi ?
Irrumation.
Une irrumation, c'est la première fois que j'entends ça. Alors.
Si, 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 je crois que c'est...
Une pipe, c'est une irrumation.
Exactement.
Alors, non.
Ce qu'il faut faire, c'est boire.
Et oui, et il y a la pompe funèbre qui est une inhumation.
C'est joli. Quand on a cassé sa pipe. Une irrumation.
Voilà. Il faudrait vérifier dans le dictionnaire, mais je crois qu'on dit
une fellation, évidemment. Ça, j'en avais entendu parler.
J'avais pratiqué.
Enfin voilà, c'est pour ça.
Donc une irrumation, c'est quand tu mouches de la bite.
Je suis irrumé, oui.
Ah, je suis vachement irrumé aujourd'hui.
Donc c'est pour ça qu'on se met.
Je sais pas ce que j'ai, mais j'éternue tout le temps.
Alors ce qu'il faut faire.
Attendez, vous d'où vous sortez ça? Personne autour. Vous aviez entendu ça? Non, vous,
je sais pas. On va regarder s'il y a un dictionnaire dans Europe 1. Il doit y avoir un dictionnaire.
On va voir s'il y a une coquine dans la salle.
Non, personne. Ou personne de pipe mot. Hein, alors là.
Non mais où est-ce que vous avez sorti ce mot-là? Une irrumation. Mais je sais pas. J'ai appris ça dans ma jeunesse.
Mais c'est pour ça que personne n'a jamais accepté. Ils comprennent pas. Oui,
oui. Non, si vous dites à une femme, fais-moi une irrumation. La fille, elle
pense que c'est oui.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va se gêner les meilleurs moments.
On nous dit que les écologistes sont furieux parce qu'hier, dans le massif de Beldon, dans l'Isère, donc deux loups ont été tués par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des lieutenants de louveterie, je sais pas comment on doit dire, louveterie.
Oui, louveterie.
Louveterie. Bon, il y avait eu un arrêté préfectoral qui autorisait ces tirs, mais qui ne leur permettait, cet arrêté préfectoral, de n'abattre qu'un seul loup. À 8h30, un jeune loup se présente.
Bonjour, je suis le jeune loup qui vient pour l'entreprise
c'est
écrit, machin.
Hein. Déjà, c'est bien écrit.
J'ai les dents qui rayent le parquet comme tous les jeunes loups.
C'est Gilles Carle dans Le Parisien qui nous raconte, qui est correspondant du Parisien dans l'Isère.
Il enlève son chapeau. Alors,
à 8h30, un jeune loup se présente face au tireur. Oui. L'un d'eux le touche. Malheureusement, un autre tireur, le tue. Malheureusement, un autre tireur qui se trouvait dans un autre secteur n'a pas pu être prévenu par radio parce que on est dans un site montagneux et ça ne passe pas. Si bien que 4 minutes plus tard, il tire lui sur un mâle adulte qui se présentait lui aussi.
Faut arrêter les loups là. Hein. Faut arrêter de vous présenter.
C'est,
hein.
C'est des loups polis.
Ils sont comme au Parti socialiste, ils se présentent tous.
Ça finit comme ça au parti, c'est dur.
Et donc, pouf, il est aussi abattu 4 minutes plus tard. Et là, alors évidemment, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Isère dit « c'est pas de notre faute ». Mais les écolos disent « non, c'est délibéré, les tireurs ne sont pas arrêtés après le tir d'un loup, ils ont continué, c'est pas vrai, le téléphone portable passe très bien, on pouvait très bien prévenir l'autre tireur que ça y est, le loup autorisé à être tué avait déjà été tué ».
Et pourquoi on autorise un loup et pas deux et pas trois?
C'est ça ma question en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils s'énervent. Alors que, hein, bon.
Non, mais attends, c'est un combien tous les ans?
Je sais pas.
L'année prochaine, ils ont qu'à pas tuer de loups. Et comme ça, le quota est rempli.
Oui, exactement.
Ils tiennent tranquilles pour un an. Et puis, ils ont fait deux. Bon, voilà, deux d'un coup.
J'ai la réponse à vos questions. Alors, en fait, il y a 6 loups qui sont autorisés à être abattus par année. Voilà. Un arrêté des ministères de l'écologie et de l'agriculture autorise chaque année l'abattage de 6 loups en France.
Bon, ça, il y en a plus que 4.
Il y en a plus que 4. C'est quoi le problème là?
Peut-être qu'on était arrivé au 6e et que ça en fait 7.
Voilà, oui, alors là,
ce que je comprends pas, c'est que bon, il y a 6 loups, mais ils doivent être malades au moins ou ils doivent avoir un certain âge ou
Non, c'est pas.
Oh, bah, attention, en plus, faut leur demander leur pénalité. T'imagines,
ils se présentent.
Déjà, ils se présentent. Déjà, ils enlèvent leur chapeau.
C'est pas mal.
Tu peux pas leur demander quel âge ils ont.
Ils disent bonjour au monsieur.
Mais ils voient ça, les gardes forestiers. Tu rigoles ou quoi? Les mecs, rien qu'à la trace de leurs pattes, ils savent déjà te dire si c'est un mâle ou une femelle.
Attention, il y en a qui se déguisent en grand-mère.
Ouais, mais si le loup se présente rapidement, tu vois, il s'en fout de regarder l'empreinte, il tire.
Moi, ce que je trouve très négatif là-dedans, c'est que d'un côté, il y a des gardes forestiers, donc c'est des mecs qui connaissent vachement bien la nature. Enfin, je veux dire, on peut pas le dire que ces gens-là sont contre la nature. Alors pourquoi les écolos leur prêtent plein d'idées mauvaises? Ils voudraient en tirer de plus. Pas des gardes forestiers, peut-être des fermiers, mais pas les gardes forestiers. C'est ça que je trouve très négatif là-dedans. Le côté, les gardes forestiers seraient contre les loups, mais c'est complètement faux. Ben moi, je pense que c'est complètement faux. Des mecs qui gardent une forêt, ils sont pas contre les loups, justement. Ils ont envie que leur forêt soit belle, qu'elle soit avec des animaux. Donc, on peut pas les taxer d'anti-loups.
Tu as rencontré beaucoup de gardes forestiers pour nous dire
oui,
ça.
Oui, très, très bien.
On dirait que tu as vécu avec un bûcheron toute ta vie.
Europe 1, les meilleurs moments de Laurent Ruquier.
Allez, une autre question. J'ai toujours eu des doutes sur le fait que Ronaldinho puisse nous être utile. Qui a fait cette déclaration? J'ai toujours eu des doutes sur le fait que Ronaldinho puisse nous être utile.
Luis Fernandez au PSG?
Non.
Non, c'est donc à Barcelone?
Non plus.
Ah bah, c'est pas l'entraîneur de l'équipe du Brésil.
Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas besoin de Ronaldinho. Qui a fait cette déclaration?
Berlusconi, le patron du Milan AC.
Excellente réponse.
Le propriétaire. Berlusconi, tout c'est le premier ministre en Italie.
Je sais même pas où il joue.
Tout ça parce qu'il a été Ronaldinho. Il a été piqué avec un travelot.
Ah non, là vous confondez avec
Ronaldo.
Ronaldo.
Ah, parce que Ronaldinho, c'est pas le petit nom à Ronaldo.
Non.
Si, t'as pas tort, il s'appelle Ronaldinho parce qu'il y avait déjà Ronaldo qui était une star. Et comme il joue aussi bien que Ronaldo, on l'appelait le petit Ronaldo.
Mais c'est vrai que Ronaldo, lui, s'est fait prendre au Brésil avec des travestis.
En train de quoi faire?
En train de fumer de la drogue.
Des pompes.
C'est mieux que ça. Non, il sait pas du tout.
Il a été pris.
Attends, t'as le droit de te promener dans la rue avec des travestis.
Non, mais là, il faisait un concours avec deux travelots, qu'il a gagné le concours qu'a la plus longue.
Non, c'est pas ça l'histoire. Je crois pas qu'il soit fait prendre avec des travestis. C'est qu'il était, il a passé la soirée dans un motel avec ce qu'il croyait être une pute.
Ouais. Ah,
et
bah
la nana, au petit matin, a dit, il est passé la nuit avec Ronaldo et je suis un homme.
Bah quoi, il a pas vu qu'elle
non.
A...
non, je crois que c'est pire que ça, Il dit qu'il a pas vu.
Il s'est fait filmer, en plus.
Voilà. Et l'a filmé avec son portable.
Il a fait monter ce qu'il croyait être des filles. Voilà. Au moment de les mettre à poil, il a fait, oh là, il y a comme quelque chose de bizarre. Là, à ce moment-là, la monsieur dame lui a pris son portable, elle l'a filmé et lui a dit, si tu me payes pas maintenant, je mets la vidéo en ligne sur internet. Il a dit, allez vous faire foutre, je payerai jamais. La vidéo est en ligne et je crois que sa nana l'a quitté.
Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Rien.
Il est en train de faire, je vais vous dire. Hier, il a fait une télé brésilienne, Ronaldo, pour s'expliquer, et il a assuré être totalement hétérosexuel et ne pas se droguer, contrairement à ce qu'avançaient ses présumées conquêtes d'un soir.
Pourquoi le croire quand il dit qu'il savait pas que c'était des mecs?
Non mais sa femme l'a largué.
Il faut très bien savoir que t'es un travestis.
Mais si tu commences à larguer ton mec parce qu'il te trompe avec des putes, alors
non, parce qu'au Brésil,
ça c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Ça c'est une femme moderne. Putain, vive l'an 2000.
Eh ben oui, hein. Oh là là. Il y a plus de mariage, hein. C'est terminé.
T'es remonté dans l'estime de beaucoup de mecs, hein.
Plus de morale.
Non mais il faut quand même être tolérante. Non, mais
en plus, c'est vrai. Il pouvait pas forcément s'en rendre compte parce qu'au Brésil, les travestis sont
bien
français,
fait.
Pas brésiliens. C'est la logique du show. Ouais. C'est vrai. Nous, on voit un travesti brésilien, on sait que c'est un travesti.
Ouais.
Là-bas, un travesti brésilien, c'est un brésilien.
Et puis il y a des travestis vraiment, franchement, on voit pas. Hein.
Ah, vous êtes fait avoir, vous déjà?
Non. T'as l'air de connaître, toi. Ah, dis donc.
Pas non du tout, c'est un copain qui m'a raconté.
Oui.
Mais absolument pas.
Il y a les travestis, il faut au moins être vicieux, regarder partout pour s'en rendre compte.
C'est bien ça, il faut mettre les mains.
Allez, on oublie Paris Saint-Germain et je voudrais vous donner, hélas, de mauvaises nouvelles de Michel Fournier. Je sais que ça va vous faire plaisir, vous, Bonaldi, parce que vous ne le supportiez pas plus que ça. Mais quand même, ce qui lui est arrivé est assez incroyable. C'est ce monsieur qui devait faire une chute libre, le plus grand saut du monde. On l'avait reçu à la télévision.
Moi, je l'avais interviewé.
Au téléphone, il avait pris son ballon géant. Là, il s'apprêtait à partir du Canada. Son ballon était gonflé de 600 000 mètres cubes d'hélium. Et que lui est-il arrivé?
Oh zut alors. Comme de la même chose depuis 20 ans, ça a pas marché. Mais ça marchera bientôt. La même chose depuis 20 ans. Le ballon d'hélium, d'un seul coup, il s'est envolé et schlac, il s'est couché par terre. Et le type était même pas monté dans la nacelle qui était dedans. Il est parti tout seul. Mais si qu'il a lâché.
Que le ballon est parti sans lui.
Oui.
C'est con.
Ah, c'est très con, oui.
Ça arrive au Paris Saint-Germain, ça aussi.
Non, mais... c'est pas gentil, etc., etc. Mais j'ai un doute, quoi. Un type qui est là depuis 20 ans et qui depuis 20 ans fait les médias. Mais fait que ça.
Ouais.
C'est qu'il fait que les médias.
Voilà,
tu sais, c'est comme la voiture à air comprimé, quoi. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je le suis, le mec. Et elle marche toujours pas, sa bagnole à air comprimé. Et lui, son soude, ça marche toujours pas. Au bout d'un certain temps, on dit, on en a ras-le-bol, quoi. Pardon, monsieur
quand
Fournier.
Quand même, il vise dans le Parisien, coup dur pour Michel Fournier, qui rêve depuis 20 ans de sauter depuis 40 kilomètres d'altitude, mais un coup dur aussi pour ses sponsors qui avaient investi 12 millions d'euros dans l'affaire.
Ah, c'est pas mal, non, c'est qui les sponsors?
Non, heureusement, heureusement, il a rajouté un petit peu, il n'y a pas eu 12 millions d'euros.
Non, mais c'est con, c'est-à-dire que le mec, il dit, il aurait pu faire le JT de 20h, il va terminer à Vidéogag, si tu veux, avec, ça, avec son pauvre ballon qui part.
Mais j'imagine, on a vu les images ou pas?
J'ai non,
pas
je n'ai pas vu.
Si, moi, j'ai vu le ballon et qui montait en torche.
Et lui à côté.
Il avait même plus la ficelle et tout.
Non, mais c'est vrai, le ballon qui était tout mou, tout, voilà, qui montait dans l'atmosphère, enfin, dans l'air. Et oui, voilà.
Ça m'était arrivé, moi, une jour où ma maman avait acheté des chaussures chez Eram. Et, vous savez, on avait le droit à un ballon. Puis je suis ressorti du magasin et pouf, le ballon est parti. C'est un peu ça qui lui est arrivé.
C'est,
ça,
voilà. C'est triste.
C'est un peu ça.
Elle vous a consolé, votre maman, elle vous a fait des spaghettis ce jour-là, vous vous rappelez?
C'est reparti.
Avec du poisson pané.
On a toujours le droit. Alors, à mon époque, on avait le droit à un ballon quand on allait chez Myris ou chez Eram. Toujours, vous, non? Non, non, non.
Il y a McDo,
Congo.
Ah oui, un ballon à l'hélium là.
Il y a McDo et Quick hein, maintenant.
Un ballon de baudruche.
Voilà, est-ce que ça existe toujours?
Ouais, toujours.
Chez tous les marchands de chaussures?
Ah, chaussures, je sais pas.
Chez les marchands de chaussures, il y avait une sorte de cheval mécanique. Ah oui. On montait dessus, on pouvait faire comme ça, tu te souviens pas?
Pour patienter.
C'était bien, ça faisait rien. Depuis, je déteste faire l'amour à cause de ça. Ça me rappelle les chaussures qui me faisaient mal aux pieds quand j'étais.
On va se gêner. Laurent Ruquier, les meilleurs moments sur Europe 1.
Une autre phrase que j'ai pu lire dans la presse hier du président, Monsieur Sarkozy dit « Maintenant, il faut agir. Il me reste 4 ans de boulot. Je suis déjà dans les livres d'histoire. Maintenant, je dois bosser.
Ben » oui.
Et je suis déjà dans les livres d'histoire.
C'est pas vrai.
Il faut quand même la lire, cette phrase.
C'est bien. Mais non, c'est formidable parce que ça, c'est son bon côté. C'est son côté enfantin.
Ah oui.
C'est-à-dire, quand on est président de la République, on est dans les livres d'histoire. Ouais. Je sais plus quel copain j'avais qui était dans Larousse. Et ben, il se baladait avec le Larousse. Ouais. C'est gros, pourtant. Bon. Et c'est vrai. Et il y a cette phrase géniale de Aragon. Je suis déjà dans les dictionnaires avant d'être un nom de rue. J'ai beau leur dire que je t'adore et ne suis rien que ton amant. C'est beau quand même.
Alors qui vous êtes un peu comme ça, vous, Pierre, souvenez-vous.
Je suis pas un nom de rue encore.
Non, mais vous étiez pas content l'année où vous étiez pas dans le quid. Vous vouliez être dans le quid.
Comme... Ah, j'adore tous les honneurs, moi.
Bah voilà.
Moi, je n'aime que les honneurs et l'argent. Voilà.
L'argent d'abord, les honneurs après ou...
L'argent d'abord, oui. Je suis pas les honneurs et pas l'argent. Quand les honneurs s'en vont, t'as plus rien.
La suite d'On va se gêner, les meilleurs moments. C'est dans un instant. On va se gêner, Laurent Ruquier, les meilleurs moments sur Europe 1.
Où est-on en train de creuser une tranchée d'un mètre de profondeur dont on aura les résultats dans les 3 mois?
Les résultats?
Oui.
Waouh. C'est-à-dire? Ça qu'on creuse pour trouver quelque chose?
Ah, oui.
Oui.
Une tranchée.
Ah! Sur Mars. Avec la pelle.
Ah.
Avec la pelle magique.
Et la pelle magique. Bonne réponse.
Non, mais attendez, il faut préciser ce que...
Ça me fascine. C'est comme ça qu'on appelle mon baiser aussi.
C'est vrai.
Une pelle magique. C'est magique.
Vous avez un coach, alors. Non? On dirait du téléachat, tout ça.
Oui. La pelle magique.
Ah non, c'est extraordinaire, ce qui se passe.
Un bras articulé est en train de creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur. Les échantillons recueillis vont être analysés dans l'espoir de découvrir des molécules nécessaires à la vie, comme du carbone ou de l'hydrogène. Et si on trouve quelque chose, on le saura dans les 3 mois, nous dit-on. Et on a vu les dernières photos envoyées par la mission Phoenix, photos de la planète Mars. Il y a rien, hein, c'est assez pauvre, hein, pas un hôtel, rien, pas un restaurant.
Il y a rien, mais c'est
pas un commerce, pas un troquet.
Cette histoire me fascine. Ils l'ont envoyé.
Moi, ça m'a rappelé Montluçon.
C'est vrai. Non, mais vous avez pas vu, ça vous fait pas rêver. Ils l'ont envoyé à peu près un an. Ouais. Elle a fait 700 millions de kilomètres. Elle s'est posée à l'endroit exactement qui était prévu. Ils ont branché la caméra. Il y avait des gens à la Cité des Sciences à la
Villette. Voyage, les gosses à l'arrière devaient avoir envie de pisser.
Hein. Ah bah, tu m'étonnes, et puis ils disaient quand est-ce qu'on arrive. Ils ont allumé les caméras et hop, on voyait sur Terre l'endroit où ils étaient et ça commence à creuser.
Non, mais tu t'imagines que la moitié de la planète crève la dalle. Il y a des mecs, tu leur creuserais des puits, ils pourraient bouffer et on envoie creuser sur Mars. Écoute-moi, ça
c'est pour les envoyer là-haut pour s'en débarrasser.
Ouais, non, mais ça me
saoule. Ça c'est le vieux débat.
Mais oui, mais ça me saoule vraiment. En ce moment où il y a des manifestations contre la faim, ça m'énerve. Combien ça coûte d'envoyer creuser sur Mars?
Oh, pas grand-chose.
Il y a personne sur Mars.
Ah, qu'est-ce que vous en savez?
Bah non, mais alors ils sont enterrés à 1 mètre du sol. Oui, on a trouvé des vagues traces qui feraient penser qu'il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on s'en fout?
Tu veux que je te dise le prix qu'il faudrait donner pour que les gens mangent tous à leur faim? C'est la moitié du prix de la corruption en Afrique. Il suffirait que la corruption en Afrique diminue moitié, c'est la même somme.
Oui,
donc évidemment qu'on peut comparer ça avec Mars. Évidemment qu'on peut comparer ça avec Mars. Mais le problème de la faim dans le monde, c'est pas si énorme que ça.
D'accord, mais en attendant qu'il y ait plus de corruption, est-ce
j'ai
qu'on
bien
peut
compris, Christine.
Pas leur creuser des puits plutôt que creuser des
Christine,
tranchées?
Christine, c'est démagogue. C'est bien que l'argent qui va là, il y serait pas allé là de toute façon.
Si vous partez de là, à quoi ça sert d'envoyer des cartons entiers de petits t-shirts Bravo Hollywood
oui,
sur tous les petits Africains qui sont en train de crever de faim et qui ont un t-shirt maximum is gay. Franchement.
Parce que comme ça, ils vont être adoptés par Angelina Jolie.
Tu vois? Non, ça n'a rien à voir.
Mais ta révolte t'honore. Mais le problème
t'honore,
est
pas... c'est du verbe t'honorer. Du verbe t'honorer.
Je t'honore, tu m'honores. Et mais c'est pas là le propos. Le propos, c'est pas qu'il faut faire l'un ou l'autre. C'est qu'il faut faire les deux autres.
Oui.
Les deux ensemble. Tu vois, on peut à la fois aller sur Mars et en même temps creuser des puits. Le problème, c'est que creuser des puits, ça n'intéresse pas du tout ceux qui ont du pognon pour aller sur Mars. Mais c'est ça l'histoire.
Une rumeur s'est propagée hier sur Internet à propos de Guillaume Canet, au point que Guillaume Canet a dû demander à son avocat d'intervenir, car quand une rumeur prend une telle ampleur, c'est ennuyeux. De quelle rumeur s'agissait-il ?
C'est à propos de Marion Cotillard ?
Pas du tout.
Qu'il était mort ?
Non.
Une histoire de charme, d'amour ?
Non.
Un rôle ?
Non. Un rôle,
oui. Parce que moi, j'ai lu sur Internet qu'il allait jouer Léon Zitrone.
Bonne réponse de Jean-Louis Génois.
Ah donc c'est pas vrai, c'était faux ?
Ben ouais.
C'est une rumeur. C'est pas possible.
Pourquoi c'est pas possible ?
Comment tu peux inventer un truc pareil ?
Non mais il peut pas jouer Léon Zitrone. T'as vu la tronche de Léon Zitrone ?
Mais il a été jeune, mais Léon Zitrone.
Non, Léon Zitrone. Vous voulez que je vous dise, non, Léon Zitrone n'a jamais été jeune.
Jamais.
Pour avoir connu Léon, je peux vous dire.
Insupportable.
Bon, quand je l'ai connu, il était déjà vieux. Mais il a toujours eu cette tête. Il a un peu grossi avec les années, mais il a toujours. Léon Zitrone a toujours ressemblé à Léon Zitrone.
C'est vrai.
Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire d'appeler son avocat pour dire je vais pas jouer Léon Zitrone ? Bon.
Bah ça dépend, parce que s'il était sur le rôle de Guy Lux, c'est sûr que ça peut lui porter préjudice.
Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner.
On a des nouvelles hein, de Joachim Noah qui a été arrêté en possession
avec un pétard
de marijuana. C'est parce que bêtement, il tenait un verre d'alcool à la main dans la rue et on n'a pas le droit, non. Vous savez, en Floride, de tenir un verre d'alcool dans la main. Il aurait peut-être fallu qu'il ait un paquet autour.
C'est ce qu'ils font.
Quand t'achètes de l'alcool, même une bière ou une bouteille aux États-Unis, t'as le papier craft qui va avec.
Et là où il n'a pas été malin, c'est qu'en fait, quand il a vu les flics au loin, il a posé le verre par terre.
Il est parti en courant.
Voilà.
Non mais,
ça, oui.
Non mais c'est vrai.
C'est pas suspect, ouais.
Surtout quand tu mesures 2 mètres.
Oui. Et que t'es ultra connu.
Il a été interpellé alors qu'il déambulait sur un trottoir du centre-ville. Joachim Noah a été repéré à un verre d'alcool à la main, un verre qu'il a posé par terre avant de s'éloigner après avoir vu les policiers, ce qui donne une bonne indication qu'il ne s'agissait pas de jus de fruits, a expliqué un porte-parole des forces de l'ordre. En fait, il aurait dû boire.
Mais
si vous voyez les flics arriver, vous buvez très vite ce qu'il y a dedans et vous pouvez dire, ben non, c'était du jus d'orange ou c'était...
Il y a une odeur
les Américains,
blanc.
Ils n'ont pas vu le fils de Yannick Noah, ils ont vu un noir courir. Et quand ils voient un noir courir, ils lui courent après.
Ah ouais.
Oh bah ouais, ils sont racistes.
C'est,
que j'ai
donc
pas
c'est rassurant pour Barack Obama, ce que vous dites.
Europe 1, les meilleurs moments de Laurent Ruquier.
On s'aperçoit quand même du nombre de sans-papiers
qui
bossent dans les restos peu partout en France. C'est incroyable.
Et dans le film qui a gagné la Palme d'Or, les mecs qui bossent dans l'école, ils disent « Grâce au film, je peux rester en France.
Ah, » oui, oui.
L'homme de ménage et tout, c'est terrible.
Pourquoi c'est terrible?
Non, mais parce
que sinon, il aurait été viré. Quoi.
Oui, donc voilà.
À quoi ça tient, une petite Palme d'Or et hop.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous dit qu'ils sont enfermer les sans-papiers. C'est-à-dire que les patrons du restaurant Bistro Romain disent que le resto est occupé par les grévistes sans-papiers, alors que les syndicats disent en fait que c'est les directeurs du Bistro Romain qui ont enfermé les sans-papiers pour les empêcher de sortir.
C'est impossible que les directeurs enferment des gens.
Ils je pense qu'ils restent à l'intérieur parce qu'il y a du carpaccio à volonté.
Oui, non, mais ça...
La CGT et la direction...
Il y a 4 directeurs qui vont enfermer 100 personnes.
Bah, écoutez,
sûr.
La CGT et la direction s'accusent mutuellement de les empêcher de sortir. Alors, c'est assez clair, hein. Voilà, et c'est vrai que ce week-end, on a dit que c'était la direction du Bistro Romain qui empêchait les sans-papiers de sortir. Bon, je comprends pas trop.
Parce que parce qu'ils trouveront jamais des employés français à ce tarif-là, hein, de toute façon.
C'est vrai.
Mais c'est vrai. Alors, les sans-papiers ne lâchent rien. Chez Quick aussi, hein, en plus, c'est le bordel juste à côté. Tous les Champs-Élysées, en fait, hein, c'est assez fou.
Ah,
hein.
C'est drôle.
Ouais. Oui, mais les loyers sont chers, Laurent. Faut bien trouver des solutions. Si on paye aussi les employés, comment on va s'en sortir?
En même temps, heureusement, le président de la République est allé à Rungis ce matin faire son marché. Vous avez vu tôt, hein, à l'aube. Vous l'avez entendu sur Europe, Christine?
Non, mais je l'ai vu sur LCI tout à l'heure, tous les deux. Et,
mais c'est tellement
elle ridicule. Elle est nickel. Elle est à 5h du matin. Elle est magnifique.
Ah, parce qu'il est allé avec Carla.
Oui,
elle sortait de boîte.
Elle est magnifique.
On va dire que tu vas pas à Rungis avec un cajot. Hein.
Ouais. Ceci dit, il n'a pas été très très courageux parce qu'il a soigneusement, il n'y est pas allé avec un thon, mais il a soigneusement évité les poissonniers et les poissonneries.
Ah oui.
Pourquoi?
Parce qu'à cause de l'affaire sur la pêche.
À cause de l'odeur.
Mais non.
je croyais qu'il voulait pas mettre Carla une odeur de marée.
C'est tellement une opération de communication. En ce moment, va mal au niveau des pêcheurs. Il va voir tout le monde sauf les pêcheurs.
Mais pourquoi il emmène Carla Bruni alors?
Pour qu'on en parle, et parce que pendant qu'on parle de Carla Bruni, on parle pas d'autre chose, et alors on dit, vous avez vu, elle est magnifique, et on a fait 30 secondes sur lui, sans parler des problèmes.
Ce matin, j'ai entendu la communication. C'était assez énorme, je dois dire, parce qu'à un moment donné, il dit, parce qu'il parlait à la France qui se lève tôt, et c'est vrai qu'il bosse à Rungis, qui se lève très tôt, et il dit, c'est sûr, ce doit pas être facile, tous les matins, de se lever tôt pour aller travailler, il y a des jours où on doit pas avoir envie, mais moi-même, et là, la comparaison est tellement incongru. Moi-même, ce matin, quand il a fallu que je me lève pour venir ici, il ne peut quand même pas comparer son job avec celui des...
Surtout qu'il l'a choisi, là, il n'a pas à venir, personne ne lui a demandé.
Il dit, heureusement, j'avais le sourire de Carla avec moi.
Mais il a dit, oui, parce que ça m'a fait plaisir, parce que quand elle a dit, je viens avec toi, mais ce qui est formidable, c'est que les mecs qui travaillent là-bas, si madame, elle dit, je viens avec toi, elle ne peut pas y aller, quoi. Tu vois,
mais c'est une super promesse, ça. Une Carla pour chaque mec qui bosse à Rungis. Ça.
Ouais.
Ça, j'imagine, s'ils s'engagent à ça.
Motive.
Ah bah ouais, un mannequin chacun.
Peut-être qu'elle est restée pour vendre son disque. Hillary Clinton était dans un meeting présente devant des millions d'Américains qui, eux, ne la regardaient pas tant que ça à la télévision parce qu'il y avait en même temps le fameux Kentucky Derby qui est une course hippique. Vous voyez, on reste dans la politique et dans les courses. Mais pas de voiture cette fois, course de cheval. Le Kentucky Derby.
De chevaux.
De chevaux,
on peut dire.
Eh, on ne reprend pas le chef, tu vas te faire.
J'ai fait exprès.
Non, parce que. Parce qu'il dit une promenade à cheval.
Oui, mais oui.
C'est un cheval. Une bite de cheval. Oui. C'est un cheval. Mais une course de cheval, non. Course de chevaux.
Chaque jockey.
Parce qu'il est tout seul, il ne fait pas la course.
Chaque jockey n'est que sur un seul cheval, vous voyez.
Là, d'accord.
C'est un contre-la-montre.
Là, d'accord.
C'est pas une course de jockey.
C'est pas au mois de juin.
Mais pas reprendre quand même qu'on dit un cheval. Des chevaux, franchement.
On dit ça.
Il faut reprendre les fondamentaux.
Enfin, quand même. Course de chevaux, si vous voulez, mais on peut pas dire une course de cheval.
Je veux.
On peut dire les fondamentales, d'ailleurs.
Pour
on peut dire les fondamentales. Si c'est féminin.
Bon, allez, ouais, une course de cheval. Il y avait une course de cheval.
Pourquoi vous nous parlez de ça donc alors?
Oui, non, mais... Christophe. Non, tu vois, jusqu'à présent, Julien Courbet, qui vous voulez? Non, jusqu'à présent, on l'avait charrié, c'était pour rigoler. Mais la question que tu lui as posée est ignoble. Pourquoi vous nous demandez ça?
Oui, pourquoi?
S'il le savait, le malheureux.
Il y a une course de dada.
De dadas.
C'est le Kentucky Derby. Hillary Clinton est là, en meeting, au moment où il y a cette course hippique que des millions d'Américains veulent regarder. Alors elle veut, évidemment, faire un petit mot d'esprit, comme on fait quand on est candidat et quand on est en campagne électorale. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hillary ? Elle dit, elle se saisit, comme l'écrit Marianne, elle se saisit de cette actualité hippique et elle recommande aux électeurs turfistes de parier sur la pouliche de l'épreuve. Car il n'y a qu'une seule pouliche dans cette épreuve, le Kentucky Derby. Que font ces électeurs?
Bah, ils suivent le conseil. Ils misent sur elle.
Eh bien,
sur la
oui,
pouliche.
Ils misent sur la jument 8 Bells, c'est son nom, qui courait dans ce Kentucky Derby. Qu'est-il arrivé à cette jument?
Elle a été battue par un cheval noir.
Elle s'est cassée la jambe.
Bravo, bravo, bravo. Voilà. Et bien, c'est le premier vrai mot d'esprit que j'entends dans cette émission depuis qu'elle existe.
Merci Pierre.
Je vous le disais, Michalak y arriverait un jour.
Oui. Non, c'est très drôle.
Il a fallu qu'on soit patient, hein, 2 ans pour en arriver.
Ouais.
Non, alors écoutez, elle a été battue, c'est vrai, mais pas seulement.
Disqualifiée.
Non, que lui est-il arrivé?
Elle s'est cassée une patte en courant ou un truc comme ça?
Elle a dérapé, ça c'est vrai, avant l'arrivée.
Oh, elle a écrasé un jockey.
Oh là là, oui c'est ça, le jockey est tombé et le jockey s'est blessé.
Non.
Elle s'est cassé la jambe.
Elle s'est brisé les deux jambes. Et alors?
On l'a tué.
On l'a abattu sous les huées des tribunes.
Oh là là.
Bonne réponse collective.
C'est super drôle.
Rendez compte.
Si. Mais je pense qu'elle a la poisse, Hillary Clinton.
Non, mais c'est
en fait,
quand même un truc terrible. Hillary Clinton dit, oui, misez sur la pouliche. La course part. La seule pouliche qui part dans la... Se dérape, se brise les deux jambes,
triste,
et on l'abat. Vous rendez compte un peu
quand même.
Peut-être
jambes.
Pour ça qu'elle s'est vengée sur Barack Obama après en disant, oui, on sait pas ce qui peut lui arriver d'ici à la fin de l'année.
C'est dingue.
Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi?
Un seau en plastique blanc et jaune. On dirait un seau de plage, deux litres, vous voyez, un seau pour faire du sable. En fait, non, c'est là-dedans l'essentiel, enfin tout ce qu'il faut pour une imprimante photo. Quel est le problème numéro un de tous les objets informatiques, genre imprimante, ordinateur, etc.? Oui, ça marche. On vous dit, regardez, c'est tout petit. Oui, mais c'est pas vrai. C'est jamais tout petit. Il y a toujours de la connectique à côté. Faut le transfo, les câbles, la souris pour les ordinateurs. Là, tout est dedans. C'est une imprimante pour faire des photos, 10-15 comme d'habitude, exactement la routine habituelle. Elle fait aussi bien les photos que d'habitude. C'est une 300 dpi par sublimation. Sauf que, après, pour le ranger, tout est dedans. Regardez, à l'intérieur du seau, il y a la recharge de papier, celle qu'on met toujours à côté, qu'on sait pas où trimballer. Il y a le râtelier pour faire les photos en panoramique. Il y a essentiel. Et puis surtout, la connectique. Et en particulier, le cordon d'alimentation. Le secteur. C'est toujours très chiant, en tout cas, on pense jamais à ça. Et voilà, enfin, une bonne idée. C'est le même Canon, parce que c'est Canon la boîte qui fait ça. C'est le même Canon qui avait une idée géniale il y a très longtemps avec une imprimante. C'était le câble. Eh bien, le câble s'enroulait dans l'imprimante.
Comme les
aspirateurs, comme le fil d'alimentation de l'aspirateur. C'était malin. Avec un truc comme ça, tout bête, ils pensent enfin, ils pensent aux clients. Ils avaient gagné 10% de part de marché.
Pensez à l'émission, proposez-nous autre chose.
Alors, c'est logique. Voici un lecteur MP3. Il se trouve que là, ça se
passe. J'aime pas vos trucs électroniques, j'aime bien les petites conneries, moi.
Bon, voici un carnet de timbres.
Ah, bah voilà.
Un carnet de timbres sur lequel on peut mettre tous les disques?
Non. Un carnet de timbres que vous allez acheter juste après un heureux événement. Pour envoyer le faire-part de naissance, vous envoyez, si c'est un garçon, vous achetez ce carnet de timbres-là. Si c'est une fille, vous achetez ce carnet de timbres-là. Et alors vous mettez le faire-part de naissance dans l'enveloppe, vous mettez l'adresse et vous mettez le timbre. Sauf que c'est un timbre à gratter. Donc le destinataire, avant même d'avoir ouvert la lettre. Il gratte et il dit c'est un, on gratte, c'est un garçon.
Mais je comprends pas.
Ou bien l'autre c'est un, c'est une fille.
Si on a raté qu'elle.
Non, c'est... non mais si dit c'est
plus
une.
Tard,
c'est
plus
une...
tard le timbre fera ses dents tout seul.
Non mais c'est marrant. La poste bouge. Ouais. Il y avait comme ça déjà des carnets
de timbre. Qui est mort dans la famille. Oh c'est papa.
Oh, super. C'est le timbre à gratter. Voilà. C'est rigolo. Enfin,
c'est un peu vieillot comme truc parce que.
C'est vieillot, mais pour la poste, c'est super moderne.
Les gens s'appellent, s'envoient un texto pour se dire c'est un garçon, c'est une fille. Oui, ils le savent même avant que la gamine ou que le gamin soit né.
Par l'échographie directement branchée sur Internet.
Bien sûr,
c'est. Non, mais ça se fait encore, les faire part de
naissance. Non, mais c'est bien.
Bon,
c'est
rigolo,
c'est rigolo. C'est du niveau des cartes postales. Soulevez ma jupe et vous verrez Auvers-sur-Oise, tu sais, dans le truc. Avec les paysages.
Soulevez ma jupe et vous verrez Auvers-sur-Oise.
Mais là, tu connais ce genre de truc. Mais c'est carte postale drôlatique.
Non, moi je pensais que vos timbres, il y aurait la photo du bébé directement.
Ah bah oui, mais
ça on peut pas la voir ça.
Ça peut se faire, on avait déjà fait ça, rappelez-vous, j'avais mis votre photo sur un timbre. Il y avait un timbre Laurent Ruquier. Mais bon, ça c'est vieux, c'est has-been.
Quoi d'autre ?
De l'électronique, hein, d'accord. Je suis désolé.
Mais c'était bien le timbre entre deux, vous voyez, ça fait une pause.
D'accord. Alors, une souris. Souris d'ordinateur. Souris que vous ne branchez pas parce qu'elle est en liaison radio. Ah, elle est en liaison Wi-Fi. Le seul problème, c'est qu'il faut des piles. Si j'ai
pas... Elle est solaire.
Non. C'est qu'en fait, c'est une souris sans fil avec fil.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que là, j'ai des piles et quand ce que j'ai plus de piles, je soulève la petite carapace au-dessus de la souris qui est aimantée et hop, j'ai en fait... un fil, si je le désire.
Ah,
le fil qui se branche sur la clé USB de l'ordinateur et qui recharge la batterie.
Mais bien sûr.
Ça veut dire que c'est à aucun moment je tombe en panne. Lorsque la batterie est pleine, il n'y a pas de...
Il paraît qu'il y a un modèle aussi où on peut mettre des petits morceaux de fromage.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va se gêner les meilleurs moments.
Je vous emmène à Grande Canarie, c'est en Espagne, et une île espagnole.
Île des Canaries.
Voilà, Grande Canarie, ah, voilà. Très exactement.
Et la petite et la grande.
Dans la même cage. Hein,
ouais.
et donc, à Grande Canarie, il y a deux femmes qui se sont rencontrées dans la rue. Et alors, qu'elles se sont rencontrées...
C'est des sosies.
Elles réclament 3 millions d'euros à qui ?
À l'autre ?
Non.
Au père ?
Non.
Alors, Marie, au mari, est-ce qu'elle se sont rendue compte que...
Vous avez dit quoi exactement, Michalak ?
En fait, c'est des sosies, elles se sont croisées.
Pas des sosies.
Ah, des jumelles.
Ce sont des jumelles.
Elles ont été vendues, il y en a une qui a été vendue ?
C'est-à-dire ?
Sur eBay.
Mais non, mais c'est vrai.
Elles ne savaient pas qu'elles étaient jumelles. Elles ont vendu 3 millions à l'hôpital. Dans le genre, la vie est un long fleuve tranquille, à la naissance, elles ont été séparées par erreur.
Excellente réponse de Jérôme Bonnet.
Non, c'est vrai. C'est marrant que t'inventes une histoire.
Ouais, c'est la vérité.
Deux jumelles espagnoles ont été séparées par erreur à leur naissance et elles viennent de se retrouver par hasard 28 ans après. 7 ans après les retrouvailles, l'une des deux jeunes femmes décide de réclamer 3 millions d'euros à la maternité en réparation du préjudice moral subi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi 7 ans après les retrouvailles.
Oui, et elle a été déclarée par qui, enfin, à qui comme parent, l'une des deux jumelles?
Ah, bah, je sais pas. Bon, écoutez, alors là, je peux pas vous dire.
La mère, elle s'est pas perçue qu'il lui manquait une fille.
Mais non,
elles ont été séparées.
Bah, la mère,
mais c'est vrai, c'est
elle a raison, c'est
elles
pas possible.
Elles doivent sûrement être abandonnées ou les mères inconnues. Ouais.
Les deux femmes sont nées dans un hôpital de Grande Canarie. L'une d'elles fut remise par erreur à une autre famille à leur sortie de l'incubateur. Parallèlement, le bébé de cette deuxième famille fut confié aux parents des jumelles. Au total, deux des trois fillettes ont donc grandi dans une famille qui n'était pas la leur.
Ah, donc ils sont alors c'est quand même bizarre.
Elles sont trois sœurs.
Elles sont trois. Il y a deux jumelles qui sont séparées.
Oui.
Et une des jumelles avec une autre qui n'est pas jumelle.
Exactement.
Donc on dit c'est ta jumelle.
Ouais. Oui.
Pourtant, elles se ressemblent pas. Forcément. Ouais. Forcément, l'autre, elle est pas là.
Si.
Ils sont pas un peu cons, Grand Canary, là-bas, non? C'est grave connerie, oui. Enfin, quand même, on leur donne, ils ont deux jumelles. On leur donne une petite brune, une grande blonde, Elle dit, mais c'est drôle. Il dit, souvent, les jumelles ne se ressemblent pas.
Non, mais les
vous
bébés,
connaissez les lois de Mendel.
Les bébés,
d'accord, enfin, quand même.
Quand ça grandit. Hein.
Mais non, les bébés, ça se voit pas.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si l'autre bébé de la deuxième famille, qui a été élevé avec, en tant que jumeau ou jumelle, alors qu'elle n'était pas jumeau ou jumelle, a finalement fini par ressembler, au bout de quelques années, à son jumeau ou à sa jumelle. Ça, ça serait intéressant.
Est-ce qu'elle envie de retrouver sa vraie mère?
Est-ce que c'est l'inné ou l'acquis? C'est le fameux,
oui, non, mais c'est ça. C'est intéressant. Exactement. J'adore.
C'est une belle histoire de fibre.
Puis en plus, il faudra voir si on pouvait avoir les dates de leur rougeole, les dates de leur machin, leur tendance, puisque génétiquement...
Non mais des deux qui ont été séparés.
Les deux qui ont été séparés.
Ah oui, ça aussi c'est intéressant.
Non, mais c'est encore plus intéressant.
Oui, mais est-ce qu'elle a été adoptée par, enfin entre guillemets, par l'autre?
Alors, je vous donne la suite de l'histoire, hein, d'après agence. Attention, hein, moi je méfie maintenant, d'après agence. Hein. Les deux femmes, donc, sont nées dans un hôpital de Grande Canarie. Vous savez comment elles ont été séparées maintenant? Ok. Aujourd'hui, elles ont 35 ans. Elles se sont retrouvées en 2001 à Grande Canarie. C'est arrivé par hasard grâce à une amie d'une des deux jumelles, dit l'avocat. Cette amie travaillait dans un centre commercial. La deuxième jumelle est venue un jour y acheter des vêtements. La vendeuse s'est approchée d'elle pour lui faire la bise en croyant que c'était son amie. Mais la cliente s'y est refusée. La vendeuse, surprise, a alors appelé son amie qui a assuré qu'elle s'était pas rendue dans son magasin. La deuxième jumelle est repassée au magasin quelques jours plus tard et une première rencontre entre les deux sœurs a ainsi été organisée. La ressemblance est impressionnante, dit l'avocat. Quoi qu'il en soit, ce dernier réclame aux autorités sanitaires 3 millions d'euros de dommages et intérêts. La sœur séparée réclame cette somme pour préjudice moral et mauvais agissement de l'administration qui ont affecté le développement personnel et familial de la jeune fille. Voilà. Et effectivement, c'est pas loin du film. La vie est un long fleuve tranquille.
Eh ben oui, mais vous vous rendez compte, moi je pense au désarroi de la solitaire. Elle est virée par les parents de la jumelle qui veulent la vraie jumelle.
Oui.
Les autres, ils disent, ah ben non, c'est la jumelle qui était notre fille.
Oui.
Puisqu'ils sont habitués. Et elle est toute seule, sans jumelle.
C'est pour elle le plus dur.
Elle est toute seule, sans jumelle, et elle est là, elle est triste, elle a du mal à vivre. Elle a 35 ans aussi, puisqu'elle est née le même jour que les jumelles.
Elle perd ses
parents. Elle a du mal à trouver un mari, elle a 35 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle serait bien. La voici. La voici, elle arrive.
Comment
Violetta. Voilà Violetta qui arrive.
Pourquoi
alors
Violetta? Violetta.
Vous êtes cru jumelle, Violetta, un Grand Canari, hein?
Vous croyez qu'elle s'appelle Violetta? Toutes
mais
les
oui,
Espagnoles.
Elle est toute seule, Violetta, bien sûr. Elle dit, moi, il y a des réceptes.
Mais elle a des parents qui sont
pas morts. Il y a des réceptes, pas du tout à ma jumelle. Forcément.
À ma jumelle.
À ma jumelle.
C'est d'ailleurs amusant parce que je suis en train de penser à un vieux jeu de mots foireux, mais qui pour le coup est parfait pour cette anecdote. Parce que faut savoir que dans La vie est un long fleuve tranquille, qui jouait le rôle du gamin? Benoît, ma jumelle.
Ouais.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, on va se gêner les meilleurs moments.
On a bien révisé, Caroline Diamant.
On a essayé. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire. Vous savez que lundi après-midi, j'étais assise à côté de notre beau Pierre Bénichoux. Nous ne sommes pas roulés de pelle et j'ai attrapé sa voix.
Ah, c'est
voilà,
vrai.
C'est très sympathique.
Ce qu'on sait grâce à l'émission et grâce à Hervé Villard qu'il y a un remède contre le mal de gorge. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Marc Morandini et Julie l'autre matin ont largement commenté.
C'est passé au zapping.
Le remède proposé
de Canal+.
Par Hervé Villard, hein, c'est une petite pipe contre le mal de gorge.
Mais Caroline,
drôle, c'est que Pierre Bénichoux m'a appelé le lendemain en me disant ça va beaucoup mieux, tu vois, j'ai essayé.
Il est con. Grâce à Caroline.
Voilà. Gérard, ça vous fait rire ce
ça me fait beaucoup rire.
Cochonnerie, là.
Ah alors. Oui, dès qu'il y a le mot pipe, je ne sais pas comment ça se fait, ça me fait rire.
C'est l'autre côté José Bové,
ouais,
ça,
absolument. Gérard Miller.
Bon, j'ai des questions. J'espère volontiers que vous aurez les réponses. Ça, c'est un peu moins sûr. Mais il s'est marié le week-end dernier et a invité 300 meilleurs amis à Marrakech pour fêter ça. De qui s'agit-il?
Bon, je vous laisse chercher.
Dès que c'est people, Madame Diamant. Hein.
C'est quelqu'un
c'est
qui vivait
un chanteur.
Ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un Américain. Vous savez, Caroline?
Oui.
Allez-y alors.
Nicolas Anelka.
Mais voilà, bravo. Le football, c'est la première fois que je vous vois suivre le football avec intérêt. Hein.
Oui, alors je vais vous dire, ça m'intéresse en fait pas vraiment parce que j'ai juste vu l'accroche, je me suis pas emmerdé à lire l'article.
Il y avait un article de fond sur le sujet.
Oui, tu sais, en général, on décrit la toilette, qui a réalisé les toilettes.
Il paraît que c'était très propre, les toilettes.
Pourtant, il a été joueur en Turquie.
J'aime bien ce joli mot pour parler de la tenue vestimentaire des femmes à une soirée.
Mais sa femme, justement, peut-être parlons-en, il a épousé Barbara, pas la chanteuse.
Les festivités n'auraient pas duré 3 jours.
Mais Barbara, alors on ne sait pas qui c'est, cette Barbara. En
Barbara
tout cas, lui,
c'est la femme qu'il aime.
C'est une danseuse qu'on aurait aperçue, paraît-il, à la Starac. Voilà, pour ceux qui repèrent les danseuses, Gérard.
Surtout à la Starac.
Ah oui, oui. Peut-être vous connaissez Barbara.
Oui, c'est la brune. Oh, il est assez joli.
Mais attendez. Ils se sont rencontrés il y a déjà 2 ans. Quoi, attendez.
Eh ben, je crois que je la connais.
Ah, c'est vrai.
Barbara. Je crois que c'est une fille qui n'est sortie qu'avec des gens connus.
Ah oui.
Ouais.
Qu'avec des footballeurs.
Doc Gynéco, il me semble.
Ah, oui,
et Michael Youn, vous savez, quand il a trompé sa jolie fiancée. Ah oui. Mais je crois que c'était avec cette Barbara.
C'est pour ça qu'il y avait 300 potes invités au mariage. Quel film vous allez pouvoir voir dans le cinéma Fogata de l'île Rousse en Haute-Corse? Quel film allez-vous pouvoir voir dans le cinéma Fogata de l'île Rousse en Haute-Corse?
Est-ce que c'est un film qu'on ne pourra voir que là-bas?
Non.
C'est oh là là, la question.
Shrek 3.
C'est sur Napoléon?
Non, du tout.
Sur Tino Rossi, alors?
C'est un film qui est sur combien d'écrans, à peu près?
Non, il y a un petit piège dans la question, évidemment.
Fogata.
C'est Haute-Corse, le petit piège?
Comment ça, c'est
cinéma?
C'est le mot film, c'est pas un film.
Non.
C'est un vrai film.
Je peux pas vous répondre à ça.
Alors, c'est Fogata, c'est un rapport, c'est... Faut chercher la ruse dans le nom de l'endroit.
Ah, est-ce que c'est pas une pellicule qu'on met sur l'écran pour éviter les crachats des spectateurs?
Non.
Donc
c'est des crachats des spectateurs.
Je sais pas. J'imagine qu'à Fogata, les gens ont l'habitude de cracher sur l'écran dès qu'il y a un méchant, vous voyez, par exemple.
Ça, c'est en Belgique, ça. Ouais.
Ça, c'est comme dans Tintin au Congo.
Tintin au Congo, oui.
Donc pour c'est un film que les gens peuvent voir à Paris également aujourd'hui.
C'est pas un film.
C'est pas possible de vous répondre.
C'est le mot film qui est
non plus, non.
Non, c'est
attendez.
Le mot.
Quel film pourra-t-on voir aujourd'hui dans le cinéma Fogata de l'île Rousse en Haute-Corse?
Alors, c'est pas un cinéma, c'est ça la vanne.
Si.
Oh là là, je sens que ça va sécher très longtemps.
Ça concerne pas le film, ça concerne les circonstances dans lesquelles il est projeté.
Ça veut dire que le cinéma Fogata a sauté.
Excellente réponse de Philippe Gueluc. Aucun film. La réponse, c'est aucun film. Bravo, Philippe Gueluc.
C'était évident.
Oh, en Corse, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre que toi qui a sauté.
Le premier truc que j'ai dit, est-ce que Haute-Corse, voilà, j'aurais dû m'attarder à Corse.
Le cinéma Fogata de l'île Rousse, comprenant une salle et un aménagement en plein air, a été entièrement détruit dans la nuit de lundi à mardi par un attentat à l'explosif. Pour l'instant, l'acte n'a pas été revendiqué, mais le cinéma est détruit. Vous ne pourrez voir aucun film. Voilà la réponse. C'était
vicieux.
Ah, bravo, mon petit Gueluc.
Merci, et merci à mes amis corses qui m'ont aidé à poser la
Alors, on ne sait pas pourquoi.
Je vais vous dire que souvent, on ne sait pas pourquoi.
Oui,
et déjà, moi, j'ai des copains dont la maison a sauté, ils n'ont jamais su pourquoi. Et on soupçonne même les types qui l'ont fait sauter de ne pas vraiment savoir pourquoi non plus.
Non, il paraît que c'était un cinéma UGC, puis les Corses se sont dit, c'est quoi ça, l'Union Générale des Corses? C'est un canal qu'on ne connaît pas.
Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner.
Michael Sandel avait bien connu son père,
fameux père de Sandal.
C'est n'importe quoi. Michael Sandel est un artiste,
oui,
dont on parle beaucoup en Grande-Bretagne aujourd'hui. Il est même exposé, autant vous le dire, à la Royal Academy of Arts of London. Mais pourquoi en parle-t-on beaucoup?
Il fait des portraits de la reine?
Non.
Il est mort?
Non.
Dans un cinéma en Corse?
Il est en vie.
Exposé, oui. Non.
Est-ce qu'il a peint quelque chose de particulier?
Voilà. Alors,
la reine.
Voilà. Il a, vous met sur la
pas
voie.
La reine, il a peint quelque chose d'assez étonnant qui est exposé actuellement donc à la Royal Academy Gallery of London.
Les oreilles du prince?
Non.
Ça
il a
pas.
Il a
pas
un objet. C'est pas un tableau.
Triptyque en fait. On peut même vous dire un triptyque irakien. Ça s'appelle.
Quand vous dites il a peint, ça n'a rien à voir avec Bugs Bunny.
Quoi de neuf?
Ça a rapport avec Tony Blair.
Oui, ça a rapport avec
j'ai posé la question et vous m'avez pas répondu.
Oui, mais c'est alors, d'abord, c'est... peut-être parce que vous m'avez tutoyé. Dans ces cas-là, non. Je ne réponds pas.
J'ai corrigé. Alors, jamais je me serais perdu.
En tout cas, c'est pas une personne, c'est pas c'est une œuvre morte, c'est un objet qui a été peint, c'est ça?
Vous voulez dire c'est pas une nature morte, c'est pour ça que c'est pas la reine.
Est-ce que c'est l'épouse de Tony Blair nue?
On voit l'épouse de Tony Blair,
Tony Blair
On les voit, on voit le couple Blair entièrement nu, en tenue d'Ève et d'Adam. Excellente réponse de Jean-Jacques Devaux, de Gérard Millerde. sauf d'Isabelle Allons-y.
Ouais, on a du bol, heureusement que c'est plus Margaret Thatcher.
C'est-à-dire, c'est un triptyque, donc il y a trois parties. Donc Adam, Ève, et c'est quoi? Il y a le serpent, la pomme
Écoutez, regardez-vous-même, voici la toile. On peut la voir aujourd'hui dans la presse, cette toile de Michael Sandel. C'est un artiste que vous connaissez, cet artiste, Gueluc?
Non, pas bien, pas bien.
Et ça se pose ou c'est une.
Et ça sent bien qu'il ne connaît pas.
Mais ils n'ont pas posé, donc c'est une élucubration de l'artiste.
Si, si, ils ont posé, connasse.
Non, mais enfin. Ça, c'est.
Oh, yo. Franchement, arrêtez de me poser des questions stupides.
C'est vrai, c'était très con.
La traditionnelle randonnée du vendredi en roller, la rando. La rando roller, voilà, va ce soir avoir lieu sur les Champs-Élysées en faveur de la candidature JO 2012. Gérard, je sais que vous faites du roller.
Mais bien sûr, avec Pierre, très régulièrement.
Ce soir, vous êtes donc attendu.
Oui, je fais
du
roller.
Tu vas jusque-là. Ouais.
Je fais du roller, absolument. Et j'aimerais bien qu'on en fasse un jour ensemble. Tu pourrais, tu sais.
Je te prends, on roule pas dans la même catégorie.
Et ce soir, donc, les rollers vont avoir le droit aux Champs-Élysées et vont tous descendre les champs en faveur de la candidature des JO. Gérard, vous allez y aller alors ?
Je n'irai pas ce soir parce que je vais écouter le concert de Jamais, dont j'avais déjà parlé, un chanteur que j'aime bien. Mais sinon, j'y serai peut-être allé. Mais ça va, je dois vous dire, ça va vous faire rire. Je fais du roller et souvent, les promenades dans Paris sont quand même un rythme assez rapide.
Ah oui ?
Un tout petit peu rapide. Alors, je sais bien qu'ils sont plutôt très sympas, ils vous attendent, ils font en sorte que tout le monde puisse suivre. Mais enfin, si c'est des vrais jeunes super actifs, c'est difficile de les suivre.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Je ne trouve rien de plus sympathique, étonnant comme mélange de générations, d'origine, de niveaux sociaux. Vraiment sympathique comme tout, ces trucs de roller. Moi qui râle pour un oui, pour un non, dans les rues qu'on occupe. Il m'arrive de rester une demi-heure, de voir passer ces gens.
Beau, hein,
où on voit des papis, des enfants, des arabes, des noirs, des français, des blonds, des bruns, des crépus, des machins. Et je trouve que c'est un truc qui donne de l'espoir.
Alors Pierre, je vais faire exactement ce que tu fais lorsqu'on dit quelque chose d'aussi intelligent que ce que tu veux dire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ces gens qui sont là avec leur roller, mais en fait, c'est des connards. J'en vois qui restent sur le trottoir, qui attendent pendant des heures. Et alors, oh, c'est multiculturel. Il y a des noirs, il y a des arabes. C'est grotesque. Moi, je t'enverrai tout ça au boulot. C'est que des cons. C'est comme ceux qui font du ski. Ils nous font chier.
Oui, le ski, ils nous font chier, oui.
Le ski, nous font chier. Une bonne bagnole.
Mais pas du tout.
Je reste bloqué dans ma bagnole pendant des heures à cause de ces petits cons qui n'ont même pas fait la guerre. Il y en a marre.
Il est pas mal.
Elle est fausse parce que je le trouve très sympathique. C'est vrai que j'étais obligé de demander les papiers et que j'en ai vu certains qui n'avaient pas fait leur service militaire. Bon, je les ai signalés.
On va passer du roller aux deux roues puisque. Alors là, vous allez être d'accord avec les Verts pour une fois, Pierre Bénichoux, puisque Monsieur Denis Baupin a réagi hier à la polémique sur les restrictions de circulation applicables aux deux roues prévues dans le futur plan de protection de l'atmosphère, et il souhaite qu'il y ait moins de deux roues dans Paris, Monsieur Baupin.
Deux roues à moteur.
Hein. Oui, parce que c'est polluant le.
Enfin, deux... on l'avoue.
Eh oui.
Parce qu'ils disent tous tellement il faut laisser passer les deux roues. La voiture pollue, une moto. Pollue comme 6 voitures.
Non, absolument.
Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit le.
C'est ce qu'il dit, monsieur.
Et c'est absolument faux. Je suis désolé. Hier, d'ailleurs, dans un reportage à la télévision, on voyait les motos d'aujourd'hui, à plus forte raison, les scooters d'aujourd'hui, polluent, c'est vrai, exactement comme une voiture, pas plus, pas moins. Ouais, c'est les anciennes motos. Et je suis absolument pour qu'on applique aux motos des obligations de non-pollution, mais sur le fond, une moto allant plus vite, ne restant pas stationnée pendant un certain temps dans les embouteillages, c'est évident que les motos et les scooters à Paris, c'est quand même mieux que les bagnoles, je suis désolé.
Sauf la pollution sonore, qui est supérieure quand même.
Tout ça peut être amélioré.
Alors vous êtes coincé, Gérard.
Pas du tout, j'ai dit tout ça peut être amélioré.
Oui, mais enfin, il faut arrêter avec votre deux roues à moteur. Pourquoi vous venez pas en roller ici, finalement?
Mais je fais du roller.
Des rollers à moteur.
Moi, j'habite du côté de la nation, donc nation aux Champs-Élysées où vous
êtes. Laissez-vous porter par les manifestations.
Je fais du vélo quand je peux.
Il est tellement bien. Bientôt, il dira, pour faire encore plus peuple, je demeure un ancien. Au lieu de dire, j'habite du côté de la nation. Tu demeures un ancien, toi? Et comment tu viens, toi?
Ben là, je suis venu en métro.
Alors, Mimi?
Je suis venu en métro, mon petit Pierrot.
Tu prends le métro, toi?
Ouais.
Alors, il n'y a plus de première, ce qui paraît.
Sylvie m'écrit, je suis fan de Gérard Miller. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas attiré par lui, mais depuis qu'il nous a appris qu'il avait adopté un perroquet, je le trouve plus humain et beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, pourrait-il nous donner des nouvelles de son perroquet, surtout sur l'évolution de son langage? Alors.
L'évolution du langage, il a 6 mois, donc c'est un petit peu tôt. Ensuite, les cacatoès, en règle générale, ne parlent pas énormément, et surtout les rosalbins, mais ils progressent.
Les cacatoès rosalbins.
C'est sa marque.
Mais oui, c'est sa marque. Mais il est d'une intelligence extraordinaire.
Ah
oui.
Mais comme son papa.
C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant.
Et il paraît qu'il se déplume un peu comme vous.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Bimbo.
Ah oui. Nous sommes heureux.
C'est un femelle.
C'est une perroquette. Alors.
Alors non, c'est tout ça le problème. C'est qu'à cet âge-là, à l'oisellerie, on ne savait pas son sexe ni l'éleveur. Donc on a dû prélever une plume pour faire, je vous assure que c'est exact, un test ADN que j'aurai d'ici 15 jours. Et donc nous avons choisi.
Et en attendant,
Anaïs,
vous faites quoi?
Un nom ambigu.
Et non, Bimbo, il l'appelle Bimbo féminin. En attendant. Et si c'est un garçon, il va l'appeler Robert.
Non, je trouve que Bimbo ira bien si c'est un garçon.
Qu'est-ce qu'il dit pour l'instant?
Non, mais. Le perroquet ne parle pas tout de suite.
Sauvez-moi de là.
Mais attends, à quoi tu vois qu'il est d'une intelligence supérieure?
Je le vois, c'est-à-dire que d'abord, lorsque il se déplace dans la pièce, que parfois je le laisse marcher, il va tout de suite vers les endroits stratégiques. Il joue déjà au foot avec moi. Il a une sorte de petite.
Vous savez, la première chose qu'il lui a apprise à dire, c'est. Ça fait 150 euros. Et alors, si le patient dit, mais c'est un peu cher, mais il dit, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça.
Non, mais il joue au foot. Et alors, je vous assure que c'est vrai, je vous l'apporterai. Il a un skate, parce qu'il y a des skates pour perroquets. Mais je vous assure que c'est vrai. Vous le mettez sur le skate, et là, il n'arrive pas encore, parce qu'il est petit, avec ses ailes. Il se déplace et fait avancer le skate.
J'adore l'expression de notre auditeur qui dit « Il a adopté un perroquet ». Mais non, il a acheté un perroquet. Il en a marre de cette façon de personnaliser, de dominiser comme ça les animaux. On achète des animaux, on n'adopte pas.
Alors, je te signale que Bimbo écoute, parce que je mets la radio notamment lorsque je ne suis pas.
Maryse, Bimbo et Pimpolo sont heureux de vous annoncer la venue dans leur foyer d'un perroquet adopté. Non, vous l'avez acheté, j'espère.
Ah, j'ai un autre mail. Là. Quand j'écoute Miller, j'éteins ma radio, signé Bimbo.
Non.
Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.